Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 44e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Deltora Quest, la série de livres fantastiques pour enfants. Ça s'en ressemble pas du tout, là, mais pas en tout. Là. Êtes-vous vraiment si perdu que ça que vous mélangez toutes ces petites affaires-là que je nomme en début de show? Okay. En tout cas, hein, c'est pour vous autres. Là. Je suis désolé. Hein? Alors, je suis Mathieu Bonin.
Hey, attends un petit peu. Je sais quelque chose, Mathieu.
OK. Attends. Wake up, Jeff. Everybody's wiggling. Wake up, Jeff. We really need you. Wake up, Jeff. You're missing all the fun now. Wake up, Jeff. Before the day's through.
Épisode 44.
Hey!
Non, mais il est arrivé quoi avec les... J'ai manqué un bout.
Alors, je suis Mathieu Bonnet en compagnie de, de Jeff Laborde.
Hey!
Et de Denis Gravel.
Hello!
C'était inattendu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 avril 2017. Journée nationale américaine de l'appréciation des battes. Les battes, c'est clairement quelque chose qui nous tient à cœur ici à Divan Quest. Oh non, excusez. Battes comme chauve-souris. Là. Ok, non, attends une minute, là, il doit avoir autre chose. Là. Ok, tiens. Nous sommes lundi 17 avril 2017, jour de l'indépendance syrienne. Non, je suis pas en train de faire des jokes de pédo avec Jeff Harrison, mais pas temps de faire des jokes de bombardement par un Cheetos enragé. Nous sommes lundi 17 avril. Lundi de Pâques, hein? Fait qu'on aimerait saluer tous les chocolats de Pâques encore sur les tablettes à moitié prix que tout le monde attend juste aujourd'hui pour aller acheter.
Et voilà.
Voilà. Alors, comment ça va vous autres?
Ben, ça va quand même, tu sais.
Ça va? Ok, cool. Ok, c'est pas intéressant.
Mais je sais pas pourquoi tu poses la question encore.
Qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine, Dan?
Ben, j'ai fini Zelda!
Il était temps, Calis.
Oui, c'est ça.
Après 128 heures.
80 plus que ma Switch 10. Ben, pas tout à fait fini. Là. J'ai battu Ganon. Là.
Ouais.
Good enough for me, mettons. Là. Je vais pas quand même essayer de trouver. Il manque peut-être 22 shrines. Un jour, là, si je m'ennuie, j'essaierai de les trouver. Je pense pas que je vais trouver les 800 Korok Seed qui me manquent.
8 ou 900?
Au total, il y en a 900.
Okay.
Il m'en manque genre 800. Là.
T'en as juste 100. Putain. Losher. Ok, à part ça.
Ben, si maintenant, je fais un petit retour sur mon expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là. Le monde est tellement vaste. Là. Mettons, c'est ce que je me suis rendu compte en jouant beaucoup. Là, que tu croises un paquet de NPC qui sont juste là pour montrer que c'est un univers. Mm-hmm. Tu sais, genre, moi je cherche des truffes, puis ils se font attaquer par des monstres, puis t'es des aides. On cherche des truffes, mais t'es calme de chercher des truffes. Mais tu sais, ils sont comme juste là pour ça, ils sont juste là pour se promener. Il y a des marchands qui font juste se promener, qui ont rien à te vendre à toi ou qui vont te vendre des cochonneries inutiles. Tu sais, ils font vivre le monde, ça fait que tu te rends, tu es dans un monde où est-ce que depuis 100 ans, là, ils vivent de l'hostie de marde, puis tu te sens comme vraiment une partie de ce monde-là. C'est ce qui fait que je me suis senti comme vraiment investi, je me suis rendu compte à la fin, avec une petite émotion là, en battant Ganon, en disant « Enfin, j'ai libéré comme tout ce monde-là que j'ai croisé de ça, tu sais. »
J'ai libéré les 32 habitants de Hyrule. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut une bonne job, parce qu'il n'y a pas tant de NPC.
Non, mais t'as l'impression qu'il y a un univers.
Ils sont bien utilisés.
Puis chaque NPC, par contre, il n'est pas générique. Tout le monde est un peu quelqu'un.
C'est ça, tu sais, sans avoir une
personnalité.
Ouais, ben, j'aimais bien le marchand, qui est comme un... tu sais, là, un scarabée, là.
Ouais, mais lui, il était là dans... c'est le même dos. En tout cas, il a le même nom que le marchand dans Wind Waker.
OK.
C'est ça, il est en bateau. Là.
Bref, il y a un backpack de scarabée avec les fourches et tout. C'est comme son branding, là, que c'est le marchand scarabée qui vend des insectes. Là. C'est juste comme, pourquoi?
C'est ça.
Bof, fine, ouais, merci.
C'est correct. Fait que j'y laisse les 4 pattes de 10 ans que j'avais donné. Mm-hmm. Ben, en fait, j'ai upgrade. Là. J'ai upgradé avec des ancient cores et des ancient shafts. Puis à chaque fois que je prenais un ancient shaft, moi, je faisais un gag de shaft dans ma tête. C'est ça.
Un shaft ancien.
Un shaft ancien.
On a déjà un gag de battre, un gag de shaft.
C'est un...
Mais, tu sais...
Bon, ben...
Mais là, pas trop loin,
celle-là. Mais... Je pense que c'est un bon épisode. On peut fermer ça, là. J'ai joué un petit peu à Lego City Undercover,
oui.
qui est sorti le 4 avril. Pour vrai, en sortant du vrai open world de Zelda, le semi-open world de Lego City, tu fais comme... Ouais, OK. Surtout que les... Puis je sais pas si l'option est là, mais je l'ai pas trouvé encore, là, pour... enlever la petite ligne de stud vert qui t'amène à ton prochain affaire, là, tu sais, qu'on en a déjà parlé, là. Bon. Fait que, reste, on comprend, là, c'est pas le même style de jeu, c'est pas le même public. Mais à date, j'ai quand même pas mal de fun. Beaucoup, beaucoup d'humour, là. Genre, tu sais, c'est assez rare qu'on est devant un jeu puis qu'on rit à haute voix, là. Ça m'est arrivé une couple de fois, là, d'avoir des bons.
Mais les jeux de Lego. Les jeux de Lego ont cet attrait.
Mais pour vrai, j'ai pensé à toi, Jeff, là, parce qu'il y a vraiment un petit côté Grand Theft Auto, mais safe, là. Tu sais, pour un kid qui aimait jouer à Grand Theft Auto, puis un terrasse qui battait des putes, là.
Moi, parce que t'as déjà parlé, justement, du malaise que t'avais à Ellie qui voulait jouer à battre une pute pour prendre son cash. Là. C'est...
Fait que la bonne nouvelle, c'est que quand tu te promènes en char de Lego, ben, si tu fais des accidents, c'est des bouts de Lego qui tombent. Puis si tu rentres dans les gens, ils soit qu'ils sautent ou tu peux même passer dessus puis ils se relèvent après parce que c'est des bonhommes Lego. T'sais. Fait que je te le conseille.
Mais il l'avait remarqué là, dans les What's New, là, dans les nouvelles.
Ouais, ouais.
Là, ça l'intéressait bien gros.
Mais il est safe.
Avec plein de références 80, genre sans arrêt.
Je vais peut-être en reparler. Là. Je vais continuer de jouer, voir s'il y a comme quelque chose à faire un segment, mais à date, j'ai un. Fait que, vraiment, c'est quand même vraiment nice. Là. Il y a des bons gags. Puis, bref, bon petit jeu. Sinon, en faisant un peu de ménage dans mes dossiers sur mon drive, je suis retombé sur quelque chose que j'avais oublié que j'avais. J'avais downloadé The Pirate Book. Je sais pas si vous avez entendu parler de Pirate Book. C'est un recueil de textes en fait, qui a été édité par Nicolas Maigret et Maria Roskowska. C'est à peu près. Dans le fond, c'est des textes qui proviennent d'un paquet d'auteurs qui jettent un espèce de regard assez large sur le monde du piratage. Là.
OK. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Fait que tu l'as pas vraiment lu, tu voulais juste dropper le son.
C'est ça. Mais okay. Non, mais pour vrai, j'ai pas fini, mais j'ai lu, puis c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment des points de vue plus historiques, des points de vue sur des éléments plus récents, mais des points de vue assez diversifiés sur cet univers-là. Par exemple, à un moment donné, il parle d'évolution des méthodes de protection contre la copie. Mm-hmm. Les copies qu'il fallait que tel manuel pour aller chercher un mot à telle page. Il y a des.
Il y a pire que ça.
Oui, mais... des genres de spinner là, en carton
exact.
Pour aller trouver les.
les Caesar Cipher.
Voilà. Ouais. Les CD Key, les ce fameux DRM de Sony aussi là qui créait des failles de,
ouais,
qui créait des failles en les enlevant encore plus grosses
puis que le remover installait encore plus de chine.
Bref, il parle de torrent poisoning, c'est d'avoir des faux torrents avec de la scrap dessus, avec l'exemple de Madonna, un de ses disques qui avait fait ça, qu'en fait c'était identique en termes de temps, de durée, de grosseur de fichier, mais tout ce qu'il y avait c'était que chaque tune partait avec Madonna qui disait what the fuck you think you're doing, puis du blank après.
Ben voyons.
Fait qu'il y a un hacker qui est allé sur son site puis qui a écrit là, il a comme effacé tout, c'était une page blanche marquée this is what the fuck I'm doing, puis il y avait tout son disque, genre toutes ses tunes étaient là dans notre direct. Ouais. Fait que c'est ça, il y a un texte aussi qui parle de la culture le Shenzai en Chine. L'idée de copier du stock.
OK, je ne savais pas que ça avait un nom.
Oui, mais qu'éventuellement, dans le fond, tu copies des trucs qui sont existants, mais qu'à force de le faire, tu développes une certaine expertise, fait que tu te mets à les modifier et à les augmenter. Là.
Ben, c'est intéressant.
Là, on parle de n'importe quoi, comme copier des voitures, copier des blenders, copier des téléphones.
L'exemple qu'il donnait, c'était un téléphone où est-ce que le gars il est parti en Afrique, genre, puis là, il s'est rendu compte que là-bas, le monde aime ça, avoir comme 3-4 cartes SIM dans son téléphone. Fait qu'il a rappelé son beau-frère, je ne sais pas trop quoi, là, qui travaillait dans une place qui faisait des copies de Samsung Galaxy, genre, là. Puis il a dit, hey, tu peux-tu m'en faire un que je peux rentrer 4 cartes SIM? Puis, genre, mm-hmm. Deux semaines après, il y avait des boîtes de téléphone qui étaient une copie d'un genre de Galaxy, mais avec 4 slots de SIM dedans, puis que tu pouvais, qu'il y avait aussi une batterie, tu peux t'en servir aussi comme batterie externe pour brancher d'autres appareils. Parce qu'ils développent, genre, ben, OK, ça peut se faire, on va gosser, puis on va le faire, parce qu'ils ont comme développé une espèce d'expertise, puis aussi beaucoup d'échanges entre eux autres. Là. C'était quand même assez intéressant pour ça aussi.
Ben, deux choses. Évidemment, t'sais, n'importe qui a joué de la musique, comment t'apprends à faire de la musique?
Ouais.
Tu repiques, tu réapprends les tunes que t'aimes, puis tu découvres un peu comment c'est fait, puis en fait, tu découvres tes propres choses en faisant des erreurs. Puis plus que ça, directement relié, en fait, AliExpress, qui est comme le paradis justement de toutes ces maudites scraps-là. Quand tu regardes, il y a un marché énorme de copies de Lego. Mais en dehors des copies immédiates qui malheureusement sont devenues de plus en plus populaires, là. Mais il y a beaucoup de hey, voilà ce que Lego fait pas qu'on peut faire.
Ouais.
Fait qu'il y a beaucoup justement de copies de Lego, mais sur des thèmes genre de Chine médiévale, puis des trucs comme ça. C'est comme oh, c'est vrai, Lego le fait pas. T'sais. Fait que faites donc ça.
Mais c'est ça, puis c'est un peu le point de vue de ce texte-là. Là, je ne parle pas quel auteur parce que c'est vraiment un collectif, mais qui disait ben oui, c'est sûr que c'est de la copie cheap, puis souvent mal faite, puis mais. De moins en moins mal faites, puis à un moment donné, ben, ils se mettent à faire des choses qui n'existent juste pas, tu sais, puis c'est intéressant.
Mais j'aime l'analogie avec la musique.
Ouais.
À part de mon background, là, mais c'est vrai que c'est. Tout le monde commence par là, puis éventuellement, tu fais ton identité à toi, puis tu.
Ouais, il parlait aussi du El Paquete à Cuba, comme dans. Ben là, ça devait être probablement un peu moins pire avec le truc qui a été levé, là, l'embargo.
Ouais.
Où est-ce que les gens ils pouvaient avoir à peu près rien. Et là, il y a des gens qui se ramassaient du stuff puis qui faisaient des genres de disques USB que tu pouvais vendre
Ouais, j'avais
pour
vu.
Pour partager des séries, puis de la musique, puis ils appelaient ça le El Paquete, il y en a un par chamène, tu sais, c'était comme un gros marché. L'État essayait d'en faire un comme légal, ben légal, qui n'était pas plus légal, mais qui était comme ce que les autres voulaient mettre, puis ça marchait. En tout cas, tu sais, il y a des trucs intéressants comme ça. Y a des familles clones au Brésil, dans le temps du Nintendo, parce que c'était pas possible d'importer des consoles. Parce qu'il y avait comme une sorte de protectionnisme qui avait lieu, puis fait qu'ils pouvaient les construire là, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Fait qu'il y a des compagnies qui faisaient des genres de clones. Puis la même compagnie, il y avait une autre compagnie avec un autre nom qui faisait des copies de cassettes, genre. Tu sais, qui faisait genre des adaptateurs. Fait que c'était pas la même compagnie que c'est l'adaptateur, mais c'était fait exprès pour ça, tu sais. Puis plus loin que ça, il parlait aussi d'adaptation, de genre de localisation qu'il faisait, là.
Ouais, ben il y a un gros marché, surtout Sega. Ouais. Le Master System a une longue, longue vie au Brésil.
Ouais, il avait adapté Wonder Boy in Monster Land. C'est devenu Monica no Costello do Dragao, quelque chose comme ça. Qui était le même style jeu, là. Ils ont juste changé le sprite pour Monica, là, qui était un petit bonhomme connu dans le coin, là, genre populaire, là. Une genre de Dora l'exploratrice de l'époque. Là. Ils ont juste comme crissé l'autre sprite dans le jeu, puis c'est identique. J'étais comme wow. Puis c'est celui-là qu'ils vendaient, puis ils se vendaient plus que l'original parce que c'est le cartoon que tu connais.
Parce que c'était Wonder Monica.
Wonder Monica.
Fait que c'est le jeu qui se passe à Maison-Blanche, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Comme,
okay, c'est
ça. Fait que pour vrai, c'était super intéressant. Parce
elle
que
avait les petites wipes de Tide, là. Qu'est-ce
qu'elle... C'est un jeu pour enfants, les gars. Bref, pour vrai, c'est super intéressant. Puis à chaque fois que je lis un nouvel article qui sont assez courts, ben, c'est comme quelque chose de nouveau que j'apprends puis que... qui offre une perspective intéressante. Là. Fait que thepiratebook.net, si vous êtes intéressé, il y a un PDF gratuit avec le
évidemment.
Évidemment. On peut acheter une version, mais c'est une version print on demand. Fait qu'on peut la faire imprimer comme puis il nous l'envoie. Soit noir et blanc, soit couleur. C'est pas donné, là, surtout la version couleur. Là, c'est ouais, genre...
Print on demand, c'est sûr.
Ben, c'est ça. Mais pour vrai, le livre en couleur, j'aimerais peut-être que je me le pogner là, parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans, beaucoup de reproductions de photos qui sont quand même nice. Puis le livre est super beau, là. Il est noir avec le texte blanc. Ça fait un peu comme computer puis tout ça. Fait que, éventuellement, peut-être, là, mais tu sais, ça va rien autour avec le shipping autour de 65 canadiens. Là.
OK. Merci.
Ça, donc, le PDF est gratuit. Il ne faut pas le confondre avec le PDF gratuit de la même taille, de la même longueur. Mais seulement
what the fuck you think you're doing? sinon, j'ai fini la saison 3 de Star Wars Rebels. Puis je ne vais pas faire de spoilers. Je vais juste dire un seul mot pour les deux derniers épisodes, là. Tabarnak! Que je vous conseille fortement d'écouter ça.
Je suis en retard là-dessus.
Je te conseille fortement d'aller écouter ça. Puis récemment, c'est vraiment récent, j'ai vu passer sur Internet une vidéo d'un gars. Le nom du gars comme passé par-dessus ma tête. Puis en tout cas, sur le compte YouTube, ça s'appelle Strange Parts, qui a décidé de se fabriquer ou de vérifier s'il pouvait se fabriquer lui-même un iPhone.
Ouais.
Un iPhone C6. Dans le fond, le gars a l'air d'aller en Chine de temps en temps pour la job. Puis avec ses allers-retours, décider d'essayer de voir. Je suis tout capable d'être moi, un homme blanc là, qui se débrouille vaguement en chinois, d'aller acheter les pièces détachées possibles pour me faire un iPhone C6.
C'était pas juste moins compliqué de t'acheter un chinois, mettons.
peut-être moins cher aussi. Mais bref, c'est intéressant parce que là, il s'en va dans ce qui a l'air d'une espèce de marché aux puces dystopique là, à Shenzhen. Là.
Nice.
Pour acheter les pièces, puis c'est super trippant. Là. Il va acheter comme les pièces pour faire l'écran, il va dans un magasin comme de réparation de cellulaire qui y assemble. Mm-hmm. Avec c'est le backlight, la vitre, ouais, ouais, tout ouais. Ça. Après ça, il essaie de trouver il trouve un case, le dos. Mais là, le case qui vend le dos, il n'y a pas les encoches et tout ça. Fait qu'il va à une place où est-ce qu'ils peuvent l'engraver au laser. En tout cas, tu sais, c'est...
Sacrifice.
Puis là, après ça, il dit, bon, mais je me demandais si j'étais capable de faire mon... comment il appelle le control board, là?
Ouais, ouais.
Puis, tu sais, genre, il a commencé à acheter toutes les pièces puis à apprendre à souder, mais c'est une affaire de con miniature, c'est pour un microscope. Wow. Puis il a fini par un peu abandonner pour en acheter un déjà fait. Puis, tu sais, là, il achète à une fille. La fille, elle dit, on peut pas le tester, on n'a pas le temps, là, mais t'as 3 jours, ça marche pas. Fait que là, il va chez eux, il teste, puis tout a l'air de fonctionner, sauf le compas marche pas, tu sais. Fait que là, il retourne voir la fille, elle rembourse, puis. Fait que finalement, il s'assemble un téléphone au complet, puis il va même s'acheter une boîte pour le grisser dedans. Puis il a pas parlé du prix, tu sais, j'aurais vraiment été intéressé de voir ça.
Il en a parlé sur Reddit.
Ok, sur Reddit, j'ai pas écouté.
Il dit que les pièces utilisées ont coûté aux alentours de 300$ américains,
okay.
Mais il y a comme 1000$ de parts, genre, qui restent de l'expérience d'avoir tout fait ça. Mais... mettons, tu iras en ligne droite, il le referait aujourd'hui, c'est une histoire de 300$.
Ouais, parce que ça, il avait acheté des chips individuels pour faire le control board puis tout ça. Là. Bref, c'était pour vrai une petite vidéo, à peu près une quarantaine de minutes, je pense, là. Assez intéressante. Ça s'écoute bien, puis c'est le fun de voir le gars, puis de voir l'espèce d'univers weird que t'as en Chine autour de ça, puis l'espèce d'application qu'ils utilisent pour se payer, là, une espèce d'application.
Alipay, non?
WePay, là, je sais pas trop quoi.
Ah
là,
oui, puis, oui, exact.
Bref, bien intéressant. Fait que ça a l'air ressemblé à ça, mes semaines. Je m'excuse, je parlais beaucoup.
Mais... Non, mais c'est bon, parce que j'aurais pas grand-chose à dire.
Fait que toi, Matt, avant.
Ben, justement, ce que j'ai baité depuis les deux derniers épisodes. Que
un changement de sexe.
Et voilà, ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas un changement de sexe, c'est un changement de job.
Un changement de chèque.
C'est ça. et non, c'est ça. C'est pas forcément d'intérêt pour tout le monde, mais sans compter l'histoire au complet, ça va à peine être mentionné parce que, bref, je me suis retrouvé à avoir une opportunité pour changer de travail. Je vais maintenant travailler de la maison. En fait, depuis maintenant une semaine, je travaille de la maison. Et cette opportunité-là, je la dois quand même au podcast. Je la dois quand même à toutes les connaissances, les gens que j'ai rencontrés en faisant le podcast, au gars de l'arcade de 2PM ici à Joliette.
Mais on s'est consulté, moi puis Jeff, là, puis 5% chacun, puis on n'en parle plus.
C'est bon, ben, on s'en reparle. Fait que non, c'est ça, on a parlé, moi puis Dan, de notre journée quand on est allé à la vente rétro de Arcade Montréal.
Ouais.
Puis c'est lors de cette journée-là que j'ai eu l'opportunité qui m'a été présentée. Fait que maintenant, en fait, depuis une semaine, je travaille avec Jean-François Cromp de Rétro Nouveau, la soirée du podcast et autres, et Élie Rodrigue, un des propriétaires de Arcade Montréal. On fait pas des jeux, là, on fait du développement d'applications Salesforce, mais, le podcast, je peux dire, m'a amené vers une nouvelle carrière. Voilà, fait que c'est vraiment comme une... Personne n'aurait pensé que ça nous donnerait quelque chose de faire le podcast, à part parler à du monde random dans des bars.
D'où ton éclat de rire dans l'article de cette semaine que tu nous avais partagé là, sur les gens qui perdent leur job ou qui sont sans emploi à cause des jeux vidéo. Là.
Ah, mais gars, t'inquiète, je vais le rajouter dans mon cette semaine d'abord, ça. Kotaku, tu sais, fucking Kotaku. Genre, ils ont fait un article, là, c'est insultant à l'intelligence de n'importe qui a... À l'intelligence de n'importe qui a une intelligence.
Un article de plus.
Et voilà. C'est hallucinant comment tu peux être un site qui... Que le public est du monde literate en technologie, qui sont des gamers, qui sont du monde en informatique, et que le blurb de ton article, le résumé de ton texte, sonne comme un article des années 90 du Journal de Montréal. C'est clairement juste fait... pour frustrer le monde que ça intéresse. Quand le Journal de Montréal, il le fait, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils savent que leur public sont réceptifs à ce genre de tapage sur le clou-là de « Oh, la grosse méchante technologie,
oui, la controverse danger, fait vendre des journaux.
Voilà, je vais trouver l'extrait pour arrêter de parler en abstrait. Mais ça, c'est... les jeux vidéo sont de plus en plus complets et attrayants visuellement. Fait que c'est pas surprenant que de plus en plus de gens sont attirés vers ces derniers. Mais dans cette nouvelle ère de divertissement digital pour avoir un côté obscur pour les jeunes hommes sans emploi, ça sonne pas comme un article d'un site de tech, là. Ça sonne pour trigger le monde qui sont dans tech. Puis je trouve ça complètement minable.
C'est un article pour provoquer des table flips.
Ouais, pour provoquer des clics puis aller chercher de l'argent de publicité. Et... Non, c'est un petit peu ordinaire. Puis à part de ça, ben sinon mon temps de gaming a été dédié à The Binding of Isaac sur la Switch. C'est pas mal là que j'ai mis mon temps parce que c'est un jeu qui te demande pas tellement de t'impliquer à long terme. C'est un roguelike, là, donc tu joues et tu recommences et bon, etc. Ce qui n'est pas mon bag habituellement. Mais le gameplay est tellement le fun. Puis une fois que tu as joué ton 45 minutes de ta game puis que t'es mort parce que t'échoues à répétition, là, ben. C'est tout. Fait que c'était facile comme d'ouvrir la console puis de retourner là-dedans. Le jeu, comme ça fait plusieurs années là, que les premières versions existaient puis ont été mises à jour depuis, je trouve ça exceptionnel que ce jeu-là ait été comme accepté.
Avec un background.
pour ceux qui ne connaissent pas The Binding of Isaac, ça se présente, ça a l'air de Zelda 1. Ça a l'air des donjons pièce par pièce, très très basé sur Zelda 1. Mais ça se trouve être une espèce de twin stick shooter. Là. Donc on se déplace, puis avec le joystick secondaire, on tire dans une des quatre directions. Et on joue essentiellement un kid que sa mère entend des voix, puis que Dieu lui dit de tuer son enfant. Après l'avoir dépossédé de tout ce qu'il y a, puis il se sauve dans le sous-sol. Puis dans le sous-sol.
Puis on parle pas d'un enfant de 8 ans, là. On parle d'un enfant genre.
C'est vraiment pas particulièrement clair, là, mais d'un très jeune enfant.
Oh, ben c'est ça.
Là. Fait qu'on joue Isaac, qui est dans le sous-sol, le basement, qui est flambant nu et qui pleure constamment, parce qu'il y a comme deux lignes bleues sur ses joues, puis on tire des larmes, c'est notre attaque. C'est déjà là.
J'avais oublié ce bout-là.
Non, c'est hard.
C'est déjà vraiment saugrenu. Le style est tellement simple visuellement qu'il y a comme un humour à ça. Pis c'est ce qui fait que ça passe. Excusez. Mais tout ce que tu rencontres... Écoute, il y a des obstacles que tu peux briser. Au lieu d'avoir des barils, comme dans Diablo, tu as des tas de marde. Okay? Il y a juste des tas de marde qui traînent à terre. Les ennemis, des fois, sont des petits tas de marde qui se promènent puis qui t'attaquent.
J'ai parlé de jeux comme ça dernièrement aussi. J'ai parlé de Toilet Kid.
Oui, bien sûr. Voilà, sauf que Toilet Kit n'a pas la réputation de Binding of Isaac. Non, c'est comme un bon jeu hardcore pour les joueurs sérieux. T'sais. Puis, chaque power-up que tu pognes, c'est une affliction ou un reflet sur la vie tordue d'Isaac. T'sais, tu pognes les talons hauts de ta mère, tu pognes son rouge à lèvres, puis là, il porte. Ça lui donne des power-ups. Ou des fois, tu pognes genre des mutations. Puis, fait que ça, des références, soit judéo-chrétiennes, vraiment ouais, tordues.
Je t'écoute t'en parler, ça me donne le goût de rejouer. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là.
C'est twisted. Là. Puis, le dernier boss, c'est toujours ta mère. Là. Mais c'est toujours une partie de. Ouais, c'était juste pour une mom joke. C'est la plus longue mom joke de l'histoire des mom jokes. Asti, c'est ça.
C'est ça le jeu.
Binding of Isaac, la plus longue mom joke of all times. La plus lucrative, mom joke of all time. Ben, c'est ça, fait que la première fois que tu fais une run, tu te bats contre. Ben, c'est sa jambe, là. Elle essaie d'être écrasée avec son pied. Puis, il y a comme des portes aux extrémités de la pièce. Puis, il y a juste comme l'œil qui apparaît ou un bout de doigt. Puis, il faut que tu tires dessus. Puis, la deuxième fois que tu finis le jeu, ben, c'est son cœur. Puis, c'est vraiment comme. C'est vraiment fucking twisted, tu sais. Puis, genre, tu joues, puis tu l'oublies complètement, là. Tu sais, c'est un twin stick, bon, avec plein d'éléments, genre. Ridicule, puis plein de références à des mimes, même à tour de bras, mais fuck que c'est twisted, là. C'est. Pour un jeu qui. Ça me surprend tellement, toutes les fois, c'est comme, ah oh oui, Binding of Isaac, là, c'est un super bon twin stick shooter, puis c'est un espèce de cult classique moderne, puis tabarnak, ouais, c'est rough, ça. Là. C'est tordu, là. Fait que c'est ça, fait que mon temps de gaming a été très, très tordu.
T'as tiré sur ta mère avec tes larmes?
Ouais. Toi, Jeff! T'as-tu tiré sur ta mère? Non, c'est pas ça.
Alors, mais je pense qu'on peut peut-être répondre à la question, mais où était Jeff?
Eh ouais.
Tu sais, dépendant voilà, tout ce temps.
Si on se fie à la tune du début, tu dormais finalement.
En dessous d'un banc de parc.
On sait juste pas si c'était outside or inside.
Ah, mais pourtant, je ne dormais pas. En fait, ben.
C'est ce qui est plate.
Hein? Au contraire, hein? J'ai plutôt procréé dans cette période-là.
Ça
tout ce temps-là. Ce temps-là je m'applique à bien faire les choses, qu'on veut. Non, mais pour vrai. Mais pour tout plein de raisons personnelles, dont c'est entre autres permis que je serai papa une seconde fois. Il y a plein de choses qui arrivent, font en sorte que j'ai un peu moins été disponible, donc c'est ça. J'ai quand même investi un peu de ce temps-là dans du gaming. Moi aussi, jouer à Breath of the Wild, même si je ne l'ai pas encore terminé. J'ai à peu près la moitié de fait, là. Je prends plus mon temps, je les cherche, c'est correct. Quand j'entends la musique là, qui nous indique qu'il y a des corocs proches, là, je les cherche.
Moi, j'ai abandonné leur graine, là.
Sacrifice.
Et moi, je cours après les graines.
Je t'entends jamais dire ça. Non, je sais. Fait que graines, bat, shaft,
ouais, on est bien parti.
On est d'une maturité exemplaire.
C'est incroyable. Sinon, il y a quelques mois, Disney Infinity là, qui avait été discontinué.
Cette semaine, ils ont officiellement éteint les serveurs.
Ok, ben, le jeu fonctionne quand même.
Oui, bien sûr.
Toujours. Puis grâce au fait que c'est plus en. Plus en production, c'est plus activement commercialisé, mais là, tous les produits ont comme baissé de prix. Ça m'a permis de faire plaisir à Fiston et de ramasser toutes les figurines sur Amazon.
Ils sont belles. Je pense que je vais checker moi aussi juste pour comme.
Mais pour vrai, ils passent plus de temps à jouer avec les figurines qu'à jouer au jeu.
Ils sont tellement belles. C'est tellement des plus belles. Puis en fait, le fait qu'il y ait un art style unifié, là, je sais qu'on avait parlé dans le temps, là, mais moi, c'est quelque chose qui me satisfait énormément de dire je prends plein de gogos sur une tablette. Là. Genre, c'est plate quand t'as un bonhomme là, qui est comme super full grand puis qui est supposé avoir un rapport avec l'autre à côté. Puis là, c'est juste comme, nope, on a un art style unifié qui est super beau. Là. Ouais.
Ça, ils jouent beaucoup avec les figurines. C'est correct, mais ils endommagent un petit peu. Mais hein, 4 ans, ça vient avec.
Ouais, maintenant.
Sauf que ce que je trouve super le fun, c'est que c'est un niveau de gaming qui est accessible pour un petit gars de 4 ans. Fait que je peux, tu sais, souvent, bon, ils comprendront pas les textes. Puis quand les personnages parlent, ils comprennent pas tout le temps. Il faut que tu fasses X, c'est pour faire avancer les textes. Mais quand on est deux à jouer en même temps, mais moi, tu sais, je peux démarrer l'émission. Puis lui, ben, il tire des méchants. Puis il est bien content avec son lightsaber. fait que beaucoup, beaucoup de gaming
père-fils.
Puis surtout le takeover, donc le oui. playset qui pouvait englober dans finalement toutes les figurines de Marvel, Star exact. Wars et Disney, qui est un genre de Diablo-esque. Là,
ouais, action-adventure.
Action-adventure. Ouais. Qui a un point de vue différent. On a ton
caméra
isométrique et tout ça. Mais où il y a beaucoup moins d'interactions, beaucoup moins d'histoires. C'est vraiment le plus... Tu frappes des monstres et tu progresses dans le jeu. Fait que c'est plus facile pour lui. Fait que beaucoup de plaisir à deux.
Il avait fait l'erreur, je pense, quand ils ont sorti ces toy box-là, de pas juste les... mettre dans le jeu là.
Ouais.
De vendre ça de en plus ça. De tout ce que tu vends ouais. déjà puis Ça s'arrêtait bien que dans le jeu de base, c'était le takeover puis le karting.
Parce que c'est vrai que t'sais, juste dans le hub, il n'y a pas grand-chose à faire. Mm-hmm. T'as des petites missions et des...
Non, tu joues les playsets.
C'est ça. Les,
ouais, dans les playsets, il y a quand même le bout où est-ce que tu peux comme rider un X-Wing avec Venom.
C'est ça.
Ça, j'ai quand même trouvé ça le fun à faire. Là,
mais non, mais tu sais, ils trouvent ça super le fun.
10 sur 10 would ride again.
Mais ils trouvent ça super le fun que le takeover, tu te promènes à travers tous les univers de Disney. Puis bon, tu sais, ils trippent sur Star Wars, mais ils trippent aussi sur Spider-Man. Puis tu sais, là, d'avoir Anakin avec son lightsaber, puis là, d'arriver, puis il y a des Venom, puis il y a des ennemis de Spider-Man à combattre, les trippes.
Non, c'est quand même cool.
Ben raide.
C'est une machine à fanfiction, ce jeu-là.
Fait que c'est beaucoup de gaming père-fils, finalement, de plus en plus. Je me rends compte que c'est vers ça que mon temps de gaming se déplace. Puis même Zelda, même Breath of the Wild, où il peut pas jouer vraiment, il s'est parti sa propre. Partie à lui, mais c'est vraiment plus difficile. Il y a beaucoup de textes, puis il sait pas où aller nécessairement. Ben, il s'assoit, puis il me regarde jouer, puis il trippe. Quand faut que je prenne.
Mais c'est un jeu qui est tellement beau que regarder quelqu'un jouer, c'est quelque chose d'agréable. C'est pas. Il y a des jeux qui sont comme, ok, mais lui, il y a comme. Tu peux regarder aux alentours, partout, puis.
Ouais, puis il y a un petit côté, les couleurs, le côté cartoon, le côté. Bon, je suppose qu'il l'attire, lui, il trippe. Ben, gros, fait que c'est, lui, il appelle ça le grand Zelda. Quand il veut jouer, mais il va jouer au petit Zelda, il prend mon DS, puis il va jouer à. Celui au 3DS.
Link Between Worlds.
Ouais, c'est ça. Link Between Worlds, il joue à celui-là, c'est plus facile pour lui. Fait que Zelda est très présent dans la maison ces temps-ci.
Alors, si dans le dernier épisode, la première nouvelle que j'ai présentée était d'un intérêt particulier pour Dan, à cause que ça parlait de GIF animé, ben cette semaine, ça va encore l'intéresser, mais parce que ce qui suit est probablement une des choses les plus cyberpunk que j'ai jamais entendues. Donc, vu qu'on est toujours perpétuellement dans son segment Shadowrun...
Oui, depuis l'épisode du genre 7.
C'est thématiquement approprié. Alors, le 7 avril dernier, le site de perte de temps Clickbiter, Kotaku, nous annonçait l'existence d'une nouvelle forme de ransomware. Clickbiter? Hein? Clickbaiter? Oh, je sais mieux.
Ouais, Clickbiter, c'est mieux.
Clickbiter.
Ouais. Ben, regarde, on va déterminer que c'était un...
C'est Clickbiter, c'est Clickbitesque.
C'est Clickbitesque.
Bon, premièrement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept des ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel malveillant, là, comme un virus, qui prend en otage des fichiers sur ton disque dur. Typiquement, les PDF, les documents Word, les documents Excel, les courriels, les images, etc. Puis, ils vous demandent de payer une somme, habituellement en Bitcoin, cette monnaie magique des internets, pour désencrypter vos fichiers, sans quoi vous êtes pas mal fucked. Le FBI rapportait que l'année dernière, les ransomware avaient coûté des millions de dollars à des victimes aux États-Unis. Fait qu'est-ce qui fait de nouveau, ce ransomware-là? C'est le produit d'un étudiant coréen qui trouvait qu'il y avait une drôle de ressemblance entre ransom et rensin, dans le sens de Tuu Sai Rensin, qui est un shmup bullet hell japonais. Suite à cet éclair de génie, il a décidé de créer un ransomware qui, plutôt que de demander de l'argent, exige que la victime score 200 millions de points au niveau de difficulté lunatique. Au pire, crise à niveau de difficulté.
C'est evil, là.
Ah, c'est terriblement evil. Le programme a été fait en blague. Là. Le créateur, c'est un fan de la série Tohu. Bon. Mais il a quand même publié sa joke sur GitHub, non compilée. Mais il a mis tout ça out there. Bon. À la surprise de personne, des gens ont propagé la patente. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'on va changer les internets Pew Pew Web. Le créateur a même avoué s'être infecté lui-même du virus et ne pas être capable d'atteindre le score. Et à regarder du monde jouer sur YouTube, je vous dirais que les victimes sont plus à risque de faire une crise d'épilepsie en juin que de réussir à atteindre 200 millions de points. En fait, j'ai un extrait audio ici d'une partie en mode lunatique. Avec la musique de la matrice en arrière. Heureusement, depuis, là, le créateur a offert un outil de décryption. Puis il a modifié le programme pour qu'il encrypte plus vraiment les fichiers. Là. Donc, sur le GitHub, c'est une version inoffensive. Les mêmes messages sont là, mais il n'encrypte pas vraiment tes fichiers.
Mais la version dangereuse est quand même out there.
Exact. Mais il y a un outil de décryption qui est...
C'est pas qui est aussi out there. Mais dans le fond, la version joke est quand même... Tu mets ça un téléphone de tabarnak, c'est ça, là!
Fait qu'en tout cas, ceux qui pensaient... que les skills de shmup allaient finalement leur servir à trouver une job en justifiant toutes ces heures qu'ils ont passées à réussir à passer un tableau dans ces maudits jeux-là, ils devront continuer à patienter.
Peut-être que tu peux partir une firme de désencryptage.
T'imagines-tu? Non, mais c'est ça, c'est l'affaire la plus cyberpunk ever. Là. C'est comme, ah, oh, fuck, ton PC est encrypté. OK? OK, Dan? Ouais, Dan? OK, bon, faut que t'aies décrypté la machine. OK, okay fine, je vais jouer à tout.
Je vais enlever ma manette.
Non, non, faut que t'amènes ton ordinateur dans un genre de dans un genre de marché en Chine, full high-tech.
Ouais, c'est ça.
Puis dans une back alley en arrière.
Ouais, puis tu montes un ordinateur avec le truc que tu t'as acheté là, de Nintendo, là, orange pétant, là.
Avec mon CTG BK6. Ouais,
tu te rends un clavier là-dedans, là, ça fait cyberpunk au bout. Ça
ouais,
fait
c'est cyberdeck.
Alors, ouais. Avez-vous déjà entendu parler de Adi Shankar?
Je connais des Adi.
Je connais Ravi Shankar.
Connais-tu Adibou? Non, c'est Adi oui, Shankar. Ben, c'est un producteur exécutif de films avec quand même des belles productions dans son CV, là, telles que The Grey, Lone Survivor et Dread, pas celui avec Stallone, là, celui avec Carl Urban, là, le bon. Là. Puis qui travaille présentement sur une adaptation animée de Castlevania pour Netflix, qui est due à sortir cette année. Il a également produit un court-métrage parodique des Power Rangers récemment, là, qui avait un ton comme super sérieux puis over the top, rappelant les adaptations merdiques de toutes les propriétés de bande dessinée qu'il y avait au début des années 2000, là, pour ne pas nommer Daredevil, mais avec une touche de self-awareness qui rendait le tout comme un peu plus divertissant que ce que ça présentait. Mais M. Shankar n'a pas la langue dans sa poche et prétend d'ailleurs que Castlevania sera la première bonne adaptation de jeux vidéo à l'écran, rien de moins. Ça prend pas pour de la marde. Puis la semaine dernière, ben, plusieurs sites de nouvelles ont été très heureux de reprendre un extrait de moins d'une dizaine de mots d'une entrevue qu'il a accordée au site WWG. Lesquels mots vont comme suit? I'd love to do a hard R Mega Man. Donc, il y a que monsieur a l'intérêt de faire une version R-rated de Mega Man. Il n'en fallut pas plus pour que ce bref commentaire lance l'Internet en mode spéculation.
À cause de la violence ou à cause du sexe? Parce que il y a peut-être des affaires drôles à faire entre une fanfiction de Mega Man et de Samus.
Bref, il n'en fallut pas plus pour que tout le monde parte en mode spéculation. Imaginons une version de Jason Bourne remplacée par un robot en bobette bleue qui tire des citrons sur des électroménagers possédés.
Ben, mais nous, c'est Bebam!
C'est le Bebam!
Le Mad Box Art Mega Man.
Eh bien, les auditeurs de Divan Quest seront heureux d'apprendre que j'ai mis la main sur un extrait du projet pilote du nom de Mega Man R.
Ça, c'est le Art R.
faut que tu me l'envoies, là, c'est ma nouvelle sonnerie de téléphone. C'est le Oh, mon téléphone, allô?
Il y en a qui diront que ça ressemble à Too Sirenson, là, mais tu sais ce qu'ils disent, là. More Pew Pew, More Problems, là, ou d'enfer de même. Et finalement, y a-t-il quelque chose de plus le fun que les listes de termes modernes francisés par l'Office québécois de la langue française? Eh bien oui, la même chose, mais par la Commission générale de terminologie et de néologie de l'Académie française.
Wow.
Alors, pour votre plus grand divertissement, voici une liste des mots en date du 8 avril, avec en bonus nos réactions à chaud, parce que je les ai pas lues. Alors, Alternate Reality Game, ARG, mais maintenant, jeu vidéo à réalité intégrée, JRI.
Bon, c'est good enough, c'est correct.
Attention, ça, je pense que celle-là, je l'aime déjà. Binge Watching, et maintenant, visionnage boulimique.
C'est le plus que tu vomis à la fin.
Quand le TV show est tellement mauvais que ça te fait vomir.
Tu l'écoutes d'un coup pareil.
Il y a comme quelque chose qui se perd en traduction.
Ouais, c'est, ouais.
C'est bon. Hein? Casual game devient jeu grand public. Bon. Casual gamer devient joueur ou joueuse occasionnelle. Electronic Sell Through, EST, devient. En fait, ou dans le cas de Electronic Sell Through Videos. Devient vidéo à la demande en téléchargement définitif. Personne ne va jamais dire ça. En fait, c'est un VADTD.
Un VADTD?
VADTD.
Un VADTD.
Ouais, ouais. C'est à un moment donné, traduis-le pas.
Ça, c'est un achat. Ça, c'est l'achat d'un film en ligne.
C'est pas vidéo à la demande. En fait, c'est ça, c'est que c'est un achat. En fait, c'est un accès permanent. C'est ça, vidéo en demande. Fait que ça reste une vidéo à la demande. Genre mais en téléchargement définitif.
Genre mes saisons de Game of Thrones que j'achète sur Google Play Store.
Ouais, c'est ça. Ouais. Que tu as accès tout le temps. Mais c'est tellement comme technique, comme description que personne ne va utiliser ça.
Fait que la prochaine saison va sortir, là, genre d'à peu près un an, mettons, le temps qu'elle passe. Puis que je veux dire. Chérie, allons acheter un VOD2 de Game of Thrones.
Allons nous procurer la vidéo à la demande en téléchargement définitif de la nouvelle saison de Game of Thrones.
Ça se commercialise bien.
Ensuite, on a le fact-checking, qui est vérification des faits. Sérieux, là? C'est comme, c'est pas... Vous avez rien fait, là.
On appelle ça de traduire.
Ouais, c'est... First Person Shooter, jeu de tir en vue subjective, qui existait déjà à ma connaissance. Game Level, niveau de jeu.
Voyons.
Game Level Designer, concepteur de niveau de jeu.
Ils ont pris Google Translate.
Ouais, hein. Ah,
il aurait pu le blender, quelque chose, de passer en Xulu.
Hardcore Gamer, hyper joueur.
Un hyper joueur. Ou Hardcore Gaming qui est...
Pratique intensive. Ça n'a aucune considération du contexte.
Non, mais c'est ça, ça sera pas utilisé, tu sais, versus la version anglaise que tu... Ouais. Je suis d'accord pour utiliser les termes français. J'aime beaucoup utiliser les termes français. Puis, tantôt dans ma chronique, je vais utiliser un terme en anglais parce que ça n'a comme pas de sens de le traduire. T'sais. À un moment donné, c'est ça. C'est beau, là, tu l'as traduit, mais ça n'a pas de sens.
Ouais, ben, quand, moi, je suis de ton opinion, mais aussi, c'est comme, ben, il faut le faire.
Oh, oui.
Fine. Puis, dans le meilleur des cas, ça nous donne des bijoux tels que divulgâchés.
Oui, ça, là, je l'aime bien. Là, genre, je l'ai comme adopté.
Ouais, mais tu l'utilises pas vraiment.
Ouais, je l'utilise de façon ironique, c'est pas vraiment.
Voilà. Mais des fois, il y en a qui restent. Tu sais, comme un podcast qui devient une balado diffusion.
Ouais, un courriel.
Ouais, mais le balado, là, si on veut tomber là-dedans, là, ça existe juste au Québec. Là. Les Français n'utilisent pas le balado diffusion. Fait que c'est un terme qui nous pigeonhole puis qui nuit probablement aux médias. Là,
ouais.
Parce que t'as comme deux définitions. Puis le monde ne savait déjà pas c'est quoi un podcast. Fait que tu crées des problèmes qui n'ont pas de raison d'exister. T'sais. Fait que pas d'accord.
Tiens. C'est vrai que, de toute façon, un mot comme podcast qui n'est pas un mot, en fait, qui est comme un
mot valise.
C'est un mot valise.
Oui, puis qui est relié à une compagnie en particulier.
Oui, ouais.
Au départ.
C'était un iPod.
Ah oui, c'est à cause de iPod.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Mais reste que c'est pas un mot. Fait que d'y donner une traduction.
Mais ça devient un mot, c'est un néologisme.
Mais à répresser tel quel.
Oui, effectivement. Mais bon, hein. Alors, qu'est-ce qui nous reste qui peut être intéressant? Bon, non, subscription vidéo on demand, vidéo à la demande par abonnement. Vada. Hein?
Ah, ben ça, c'est
Vada.
Pas bien,
ouais. C'est pas une animatrice, ça, Musique Plus?
Ouais. Okay. Ça, c'est à quand? Vada, allô Vada!
Ça n'a pas de style à l'heure. Il y a, MMOG, les Massively Multiplayer Online Games qui deviennent les jeux en ligne, multijoueur de masse.
De masse.
Ouais, c'est les jeux de rôle en ligne, multijoueur de masse, les MMORPG.
Ouais, ouais, ouais.
Selon un post en ligne, masse, là.
Non, mais selon un post récent sur Reddit, MMORPG, c'est aussi le son produit par le cul d'un gamer après 7 heures de jeu continu.
Quand il se lève de sa chaise.
Mort.
Ouais, je pense que...
Et il nous reste... Ah, il nous restait le third-person shooter, mais le jeu de tir en vue. Objectif.
Ah, ben oui, à l'opposition à la vue subjective.
Mmh. Ouais, c'est qu'il n'y a personne qui comprend de quoi tu parles. Mmh.
J'aimerais suggérer à l'Académie française le terme clickbiteux.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est qui concerne un hostie de graine qui t'amène sur un site pour cliquer sur des liens.
Ben Newsy!
Alors, à venir dans l'univers de Divan Quest, dans les semaines du 17 au 30 avril, je commence avec le 18 avril sur PS4, Xbox One et Steam. Lorsque galaxie pleine de super-vilains et super-vilains, chacun à la recherche de la richesse fictive. Mais quand le chasseur dangereux frappe un plan sinistre pour libérer le mal ancien, vouloir tout lui-même, le roux de granit, la galaxie en action P, plus petit mais toujours difficile. Soyez prêts à sauter, glisser et de feu tout autour, la galaxie du mauvais don. Même le crochet du granit du pistolet plasma attend ou d'énergie fiable est prêt à prendre tous les voleurs, alors que la fiction se sauver.
Moi, j'arrêtais à roue de granit.
j'ai un indice, là, pour... Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. C'est un indice, ça?
Un truc de Space Pirates?
C'est Revenge of the Roux?
Oh. Et non, c'était Flint Hook qui sort le 18 avril.
Oh,
ben oui. Oh my god.
Oui, Flint Hook, qu'on enlève les majuscules pour que ça devienne intéressant, est devenu roue de granit.
Oh, c'était cœur.
Il a passé par le silex, puis écoute, je sais pas comment la roue est arrivée, là, mais.
Bon, ben ça, c'est après histoire, là. Puis,
ouais, c'est Merci, Matt. toujours le 18 avril, cette fois-là sur PS4, Vita et PC. Plein gaz graphique de jeux classiques raconte l'histoire de Gaz Ben. Match de la victime tête des guerriers de motard dans les moufettes. Yes. Et sur la Mokokai Kaila, je ne sais pas de quelle langue c'est resté ce mot-là, dans l'histoire a eu lieu la misère et la mort.
Mais les moufettes, c'est les polecats qui deviennent les moufettes. En avant, mais c'est le remaster de Full Throttle.
Yes.
Oh yeah. Est-ce que ça sonne?
C'était pour toi celle-là.
Il y a genre deux tunes dans ce jeu-là qui viennent de Gun Jackals qui sont comme responsables du soundtrack du jeu, mais il y a deux bouts de tunes, mais c'est juste du gros biker rock. C'est clair. Excellent.
Ben, pour vrai, j'avais jamais vraiment regardé ce jeu-là, mais comme on parlait la dernière fois dans la dernière causeuse, c'est un genre de jeu moi, qui m'intéresse de plus en plus, fait que celui-là, il va peut-être se passer.
Autour de sa sortie, c'est sûr que j'en ferai une présentation parce qu'il mérite votre temps.
Ils ont-tu revamped les contrôles?
C'est un point and click. Il semblerait qu'ils sont tout le temps à revamper le système de combat parce qu'il y a une section action dans le milieu du jeu qui est un petit peu laborieuse.
Okay.
Avec une souris. En tout cas, bon, les contrôles étaient honnêtement un peu chiants. C'est supposé être retapé, puis l'audio a été remasterisé, évidemment, parce que bon, la qualité audio sur le jeu à l'origine, ça commence à dater un peu. C'est 94, si je ne me trompe pas. Mais non, c'est un très, très, très bon jeu. Ça va me donner une raison d'y rejouer. Si on s'entend qu'il me prend 3 heures, là, je le connais tout. Là. Ouais. Fait que c'est une ligne droite de 3 heures, mais anytime. Anytime.
Je termine ça avec le 21 avril sur la télé. Qui a fait la Terre, talk show américain à l'avenir? Ce sera fondé sur la science et à examiner la relation entre l'État, la société et la culture pop. Le premier jour, sur des questions telles que le changement climatique, le bois, les jeux vidéo et le sexe des témoins Outlook, comme des légendes urbaines et affirmations non scientifiques.
Est-ce que c'est le nouveau show de Bill Nye?
Let's do something fun! Come on! I'm Bill Nye and I'm here to dare I say it! Save the world!
Donc,
intense. Yes! Et je suis mauditement excité par ce show-là. Ça a l'air quand même assez intense. Là. Déjà, Bill Nye, c'est un peu un héros de n'importe quel prof de science qui connaît un peu la culture américaine. Parce que, bon,
évidemment.
Mais,
parce que sinon, il te reste Grégory Charles, un débrouillard. Là, ce qui...
fait que j'ai quand même hâte de voir sur Netflix. C'est ça. 21 avril, c'est bientôt.
Cool.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
Alors, c'est le moment dans l'épisode qu'on prend pour remercier les donateurs sur Patreon qui daignent bien de donner une coupe de piastres pour couvrir nos dépenses. Ben, c'est ça. Ben, merci.
Ben, merci. C'est toujours très apprécié. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, le 17 avril, comme tu l'as si bien dit au début avec les différentes journées, là. J'ai commencé en 1211 où le comte de Toulouse, Raymond VI, est excommunié par le pape Innocent III. J'ai pas trop compris pourquoi, une histoire de politicaillerie monarchique française. Peu importe, je trouvais juste ça drôle de dire que Raymond avait été excommunié par Innocent. Moi, je trouve ça comique, puis c'est la chronique.
Raymond de Toulouse.
Raymond VI de Toulouse.
Raymond VI, il y en avait 5 avant lui.
Ouais, Raymond à Toulouse.
1480. T'es une Mathieu combien, Juliette?
4487, là.
1492, justement.
Justement.
Signature des capitulations de Santa Fe qui permettent à Christophe Colomb de traverser l'océan Atlantique en compagnie de Guillaume le Métis Vierge au volant d'une Hyundai. Tu sais, Santa Fe.
Ah, sac. J'étais comme, c'est quoi, joke? Ah, ok, c'était ça. Ah.
1897, incident d'Aurora au Texas où un ovni se serait écrasé entraînant la mort de son pilote là, qui aurait été enterré dans le cimetière local. C'est à ne pas confondre avec l'incident d'Aurora, Illinois, en 1992 où une émission de télé locale est rachetée par un grand réseau de télévision.
Westworld, Megaton, excellent!
Stick. on le voyait venir.
Je me suis rendu compte en le faisant jouer que c'était mon comme troisième son de Wayne's World dans le podcast. Là. On finit par une poursuite.
Ou un copyright claim sur YouTube.
Même sur la version française.
Ah, quand on sait jamais.
Mais pas évident à trouver sur YouTube, justement.
Les versions en français?
Non, parce qu'il l'offre en location.
Ha ha!
1964, pendant la foire mondiale de New York, Ford présente sa nouvelle voiture sport, la Mustang. Mmh. On a ici un extrait de leur publicité. Un peu de pop indienne.
C'était pas trompé, il me semble que. Non, j'avais. C'était pas cette annonce-là qui avait fait jouer.
Non, ça, c'est un extrait de Mad Max quand il utilise une Mustang. Fait que, en tout cas, j'ai quand même donné la référence. Là, s'il y en a qui veulent écouter le reste de la tune, c'est Sim Jarnit Singh qui chantait Vroom Vroom.
Ouais, ça s'écrit comme ça, arrangez-vous, Calis.
Ben, pour le reste, tu vois sur YouTube, tu tapes Vroom Vroom, c'est les premiers qui sortent.
Ça, puis des annonces de Mazda.
Ouais. Qui a justement joué dans l'épisode 44 des Sorbets du caractère mou, qui avait un bout sur les pubs de Mazda.
Non, mais écoute.
On est tellement connectés.
On peut pas se porter responsable de tout ce qu'ils font. Là.
Non, non. Loin de là. J'avance en 1970. Retour sur Terre de Tom Hanks, Kevin Bacon et Bill Paxton après avoir survécu au film Apollo 13. Oui. En fait, c'était le vrai retour sur Terre de Apollo 13. Mais... 1982. Élisabeth II, la reine du Royaume-Uni, oui, proclame le rapatriement de la Constitution canadienne qui établit là, que le Royaume-Uni ne peut plus modifier la Constitution canadienne. Ah! Ouais, on se rappellera qu'un certain soir de novembre...
Le 4 novembre au soir!
Le quoi?
Le 4 novembre au soir!
Encore!
Le 4 novembre au soir!
Ben, il y a des discussions qui ont eu lieu à l'insu du premier ministre du Québec de l'époque, là, René Lévesque, pour trouver un terrain d'entente pour ce rapatriement de la Constitution. Le premier ministre dormait à Hull, lui, ce soir-là. Là. Contrairement à ce qu'un groupe d'humoristes des années 80 essaie de nous faire croire. Là.
C'est une professionnelle pour le tipouel. Il dort comme un poupon. Il sleeps with a popon.
Aïe, aïe.
J'aurais pu faire jouer le reste de la capsule historique de RVO parce que le reste, comme l'espèce de narration par Bruno Landry, est assez spot on pour vrai.
De la nuit des longs couteaux.
De la nuit des longs couteaux avec un petit fond assez abrasif. Voilà. On pourrait y revenir hein, le 4 novembre 2019 là, qui sera un lundi. Peut-être que
2019.
On va y faire un segment.
On se met ça à nos agendas.
2013 plutôt, légalisation du mariage homosexuel en Nouvelle-Zélande. Enfin, les geeks gays pourront aller se marier sur les lieux de tournage de Lord of the Rings.
Fouilili!
Elle vient en elfe. J'ai pas mis celle-là, elle était trop facile. 2016, sortie sur itch.io de Jess Ball Classic. Un remake identique en tout point à l'original qui était sur Windows 95. Là. Pas sûr, par contre, que je paierais le 5$ US qu'ils demandent pour rejouer
à ça. Ah, ils vendaient.
Ouais.
OK, ben, l'option est là. Hein?
C'est ça. Ou installer Windows 95.
J'allais dire, c'est peut-être moins long de s'installer une VM, une machine virtuelle Windows 95 pour jouer à Jazz Band.
Moi, je vous le conseille parce que ça va vous permettre d'essayer des choses dont je vous parle tantôt à la fin. Ouais, teaser.
Je suis excité, là.
Fait qu'installer ça d'ici là.
Oui, vous avez à peu près une demi-heure pour installer ça.
Ça va prendre combien de temps, c'est avec Windows 95, même en...
En fait, avec... bon, écoute, tu poses malheureusement vraiment la question. Ouais. Tu peux télécharger des VM qui est déjà installé.
Ah, OK.
Il y a des kits de VM, justement, pour simplifier le support puis les intégrations de genre que, tu pognes la VM, t'as monté sur ton système, puis il est tout fait.
Puis tu joues à Jazz Ball.
Tu joues à Jazz Ball. Oh. Puis, tu sais, le Christy Jude Pinball, là, mm-hmm. Space Cadet. Là,
Oui.
Pour ça va peine.
Happy birthday to you.
1946, naissance de la chanteuse, comédienne, animatrice de télévision, mais surtout has-been professionnelle québécoise,
Varda?
Michel Richard.
Ah, OK.
46 Varda. C'est né en 46, Varda est solidement conservée.
Tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Black don't crack.
Donc, revenant au crack, oui, Madame Michel Richard.
Bon.
Plutôt que de faire un autre gag cheap là, qui impliquerait un tapis d'hôtel, je vais plutôt profiter de la tribune que j'ai pour avertir Marie-Mé, qui nous écoute probablement. Hein.
C'est bien connu.
Qu'elle voudrait peut-être aller éditer l'entrée Wikipédia de Madame Richard parce qu'on la compare à cette dernière.
Pardon?
Oui, j'ai la citation. Ça dit « Musicalement parlant, Marie-Mé est en quelque sorte l'incarnation artistique de Michel Richard depuis les années 2000 jusqu'à nos jours. »
Écoute, elle apprendrait ça d'après moi à chier à terre.
Fait qu'on a eu droit au gag Jeep de tapis. 1959, naissance de l'acteur britannique. Ben en fait, je vais le laisser se présenter tout seul en lisant quelques phrases qui le concernent.
One does not simply live through a movie. Brace yourself. Instagrams of the sunset are coming. One does not simply break the internet.
Donc, monsieur Sean Bean, que dans une entrevue avec j'oublie qui, ils ont fait lire des mimes de Sean Bean. Voilà. Bonne fête.
Ben,
en lui souhaitant de se rendre jusqu'à la fin du podcast. Là. On lui souhaite de se rendre à la fin du podcast.
Sur le podcast, il est mort.
Ouais, c'est, voilà. C'est canon. C'est...
Dans notre univers. Là.
Et voilà. Dans l'univers de Duval.
C'est voilà. 1967, naissance de l'ancien voltigeur des Expos de Montréal.
Lâche ma calotte, Marcus. La prochaine fois, je t'engrissume.
On s'en sacre un peu, c'est juste parce que c'est tant drôle de dropper du virus. Et 1969, naissance du comique québécois Peter McLeod, dont on a obtenu ici un extrait d'un de ses meilleurs sketchs.
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est une niaiseur! Oh. Mais quand j'ai quitté, j'avais quand même une réputation. Non, vous n'êtes pas là. Vous là aussi, vous parlez.
C'est Chris, tu pourrais au moins faire semblant de rire, tu payes pour être ici.
Ouais. Je finis avec mon dicton. À la Sainte-Anicette, le soleil réapparaît.
Je te mets.
Applaudis, toi!
Regardez ce centre de celle-là.
Blade of Steel.
Ouais, elle m'a dit comme Dan, garde-les pas loin parce que.
Applaudis, toi, Colin!
J'ai déjà parlé sur le show brièvement de la Neo Geo Pocket Color. Cette petite console méconnue. Mais j'ai donc décidé justement aujourd'hui que j'allais m'assurer que tous ceux qui nous écoutent ben, connaissent vraiment mieux l'histoire tragique, émouvante. Non, juste l'histoire de la Neo Geo Pocket Color. Neo Geo, là, bon, de SNK, a toujours été connue comme une marque premium. Là. C'est pour ceux qui connaissent la plateforme Neo Geo. C'est une console qui offrait littéralement des performances d'arcade parce que c'était la même mécanique, le même board, le même processeur, tout dans les plateformes d'arcade Neo Geo que dans la console qu'on pouvait se procurer à la maison à un prix complètement exorbitant. Mais c'était évidemment la console 16 bits la plus performante à l'époque à cause de tout ça. Puis il faut se remettre en contexte, là, parce que jusqu'en 98, la console portable de Nintendo, c'était encore le fucking Game Boy sorti en 89.
C'est vrai, hein?
Okay? C'est ça, fait que ça détonne un petit peu, là. On a le petit écran 4 tons vert dégueu, avec une performance comparable au NES dans le meilleur des cas, tandis que dans nos salons, on a des PlayStation 1 puis des 64. C'est ça la juxtaposition, là. C'est ça qui se passe en... Jusqu'en 98.
C'est pas mal quand tu y penses, parce que tu sais, on y pense pas souvent. Là.
C'est 95 pour le Pelé 1, puis 96 pour le 64. Puis on est en 98. En fait, en 96, on a droit. Il y a 96 Pokémon qui sort. Fait que tu sais, c'est ouais. Parfaitement d'actualité le Game Boy noir et blanc dégueulasse jusqu'à 98.
Il n'y a pas sorti Game Boy Color avant ça, même pas?
Nope.
Wow.
Et voilà, justement, j'y arrive. Puis ce qui a fait le succès, justement, du Game Boy, là, c'est évidemment pas la qualité de ses graphiques, là, mais c'est que depuis le premier jour, le Game Boy coûtait pas cher. Puis avec les années, puis le succès justement de Pokémon qui arrive quelques années avant 98 là, pour le début de cette histoire-là, ben, la barrière d'entrée était super basse, puis t'avais un catalogue qui était rendu complètement massif, puis tu rajoutes Pokémon qui était rendu une raison essentielle d'avoir cette plateforme-là pour beaucoup. Pis c'est là que SNK s'est dit que leur technique habituelle, là, c'est-à-dire de faire des produits giga, premium, puis de passer au-dessus du marché, allait pas marcher. Fait que, ils disent, on va essayer de pas faire comme les compétiteurs, parce que c'est ce qui est arrivé au Game Gear avant, c'est ce qui est arrivé à la Atari Lynx, c'est que c'est des plateformes qui étaient beaucoup plus performantes que le Game Boy, mais qui n'ont jamais réussi à compétitionner. Fait que, cette méthode-là, ça marche pas. Fait qu'ils ont décidé d'offrir la même formule que Nintendo, donc une console modeste, abordable, mais que les jeux allaient utiliser les forces de la plateforme pour en faire oublier ses faiblesses, tout simplement. Fait que c'est là que SNK a annoncé le Neo Geo Pocket, pas couleur, en noir et blanc. Et une semaine... Après, et en fait, il est sorti une semaine après que le Game Boy Color soit sorti au Japon.
Oh.
Donc, obsolète Day One. Là, en plus, t'arrives avec le Game Boy Color qui peut jouer à tous les jeux de Game Boy, qui a un processeur plus performant que le Game Boy, puis qui permet de rouler donc des nouveaux jeux qui auraient été impossibles avant. Fait que la Neo Geo Pocket aurait pu être, avait beau être plus puissante là, que le Game Boy, là, c'est pas ça que le monde a vu. Là, quand t'arrives vis-à-vis d'un écran couleur, bon, tu perds automatiquement. Ouais,
c'est
là.
Le Game Gear a essayé de se positionner comme ça avec les pubs, là, le, ouais, de la couleur.
Et voilà. Puis ça n'a pas été suffisant parce que le catalogue n'était pas là. Ben, la performance non plus, là, mais bon.
Les batteries non plus.
La portabilité non plus.
Tabarnak.
Il y en a une brouette à traîner.
Alors, 5 mois plus tard, SNK relance la Neo Geo Pocket, mais version couleur. Puis, en passant, le prix à la sortie, 70$ US, donc le même prix que le Game Boy Color. En passant, à sa sortie américaine, était vendue seulement en ligne. En 99. C'est pas exactement au sommet de la folie Amazon, là.
Non, c'est ça.
Fait que, bon, en tout cas. Fait que bon, la Neo Geo Pocket Color arrive, avec un petit boost de performance par rapport au modèle noir et blanc. Fait que quelques jeux, vraiment quelques jeux, qui sont pas compatibles sur la Neo Geo Pocket noir et blanc, mais c'est vraiment plus l'exception là, que la règle. Fait que justement, on va en parler de la machine, pour ceux qui l'auraient jamais vu ou qui n'ont pas d'idée de ce que c'est. Côté spec, la Neo Geo Pocket Color, c'était une brute comparée au Game Boy Color. Le processeur 16 bits, avec 3 fois la RAM du Game Boy Color. Le système de sprite, là, donc d'illustrations, de personnages, d'éléments animés, bref, était beaucoup plus massif. Puis le système, avec toute sa mémoire vive, permettait d'avoir des animations qui étaient mauditement plus détaillées et fluides que tout ce que le Game Boy Color pouvait imaginer offrir. Fait que bref, à sortie du Neo Geo Pocket Color, c'était clairement la console portable la plus impressionnante. L'écran pouvait afficher plus de couleurs, là, pas tellement à cause du matériel de l'écran, mais à cause du hardware derrière.
Voilà, c'est ce qu'il y avait en arrière dans le...
Voilà. Mais dans les deux cas, ben, c'était des écrans qui n'étaient pas rétroéclairés, qui est encore probablement le plus gros obstacle à jouer à la Neo Geo Pocket Color aujourd'hui.
On s'en rend pas compte, hein?
Non, ils pensent même pas.
Non, parce que quand, l'autre fois, j'ai rebooté mon Game Boy Color, mettons, là. Mm-hmm. Oh shit. Ouais, j'avais oublié.
C'est un acquis. Là. On c'est impensable. Avec les cellulaires, avec
c'est
les...
juste impensable.
Ben, surtout depuis même le Game Boy Advance, quand j'ai pogné celui qui est rétroéclairé, là, tu repars là. Tu... Oh.
Ah, c'est ça. C'est... There's no going back. Puis, au niveau là, du format, là, en passant, la Neo Geo Pocket et la Pocket Color sont à peu près identiques visuellement. Donc, on a une console qui est en format horizontal, là, plus comme le Game Gear, donc avec les contrôles de chaque côté de l'écran, contrairement au Game Boy qui a évidemment les boutons en bas et l'écran au-dessus. Mais comme le Game Boy, par contre, on a droit à 2 boutons de contrôle. Et par contre, on n'a pas un D-pad sur la Neo Geo Pocket Color, mais on a, donc pas des flèches, là, style Nintendo, mais on a ce qu'ils appelaient eux-mêmes le Clicky Stick. Ouais, en tout cas.
C'est encore dans notre série de gags de bad de l'épisode.
Ça peut. C'est pas très très clickbiteux comme nom de produit, mais bon. Mais non, ça c'est un petit joystick qui est vraiment inspiré des joysticks. En fait, qui a inspiré les joysticks analogues qui ont suivi des consoles portables, si on pense au PSP et à tout ça. Mais c'est un petit joystick qui est quand même numérique, qui clique quand on touche une des directions. C'est sérieusement le meilleur contrôle que j'ai jamais eu sur une console portable. C'est exceptionnel la précision que ça donne. Puis il n'y avait pas le choix, anyway, parce qu'on parle de SNK. Donc, on parle d'un catalogue à 50% plus meublé de jeux de combat. Donc, ça prenait un système de contrôle adéquat pour ça. Puis justement, tu peux pas parler d'une plateforme sans parler de son catalogue. Puis la majorité des jeux disponibles, là, c'est des ports, des licences de SNK. En version 8-bitesque, bon, 8-bitesque, 8-biteux.
Clic-bitesque.
Et voilà. Puis c'est vraiment sérieux, c'est vraiment de toute beauté, là. Tu sais, j'ai déjà parlé là des D-Make, puis comment j'aime le look un petit peu 8-bit low-tech. Là. Ben, cette console-là, c'est une mine d'or. Là. C'est juste une mine d'or pour ce genre de look-là.
Mais s'il était tant avancé, puis il y avait une librairie, il y avait une meilleure technologie, pourquoi on n'en a jamais entendu parler?
On va y venir. ben, en fait, premièrement, je peux te dire pourquoi on n'a pas entendu parler. Il n'est pas sorti au Canada. Là.
Oups. Bon,
ça a été ouf,
hein?
Ça, ben, c'est ça.
C'est une série de mauvaises décisions de marketing.
Et d'autres événements. Mais bon, les jeux de SNK justement sur la console ont pas mal tout le même look. Okay, pour revenir à nos ports de jeux SNK. Donc, c'est une version un petit peu grosse tête. Un petit peu chibi. Pas exagéré, mais on a un look très très simplifié, très très épuré des personnages pour qu'ils paraissent bien et soient reconnaissables dans un look 8-bit. Mais avec des animations hyper fluides. Là, qui est un petit peu aussi le bagage de SNK, d'avoir tout le temps des animations qui sont très très fluides. Fait que là, on a le droit à la plupart des jeux de fighting de SNK qui ont été portés. Donc, on a Samurai Showdown, on a The Last Blade, on a Fatal Fury, on a King of Fighters, mais on a surtout SNK vs Capcom. Parce qu'un peu avant la sortie du Neo Geo Pocket Color, SNK et Capcom avaient fait un deal qui leur permettait de faire des jeux crossover d'un côté et de l'autre. Donc, on a eu le droit en arcade à SNK vs. Capcom et à Capcom vs. SNK, donc fait par chacune des compagnies.
Ok. Je me demandais c'était quoi la différence entre les deux.
Puis là, bref, ils ont utilisé cette licence-là pour faire un jeu de fighting dans le même style que les autres. Donc, réutiliser plein d'assets qu'ils ont fait pour King of Fighters, évidemment, sur la version Neo Geo Pocket Color. Mais on rajoute les personnages de Capcom. Puis ça leur permet justement de... t'aurais pas eu accès. Capcom aurait pas fait un jeu pour la Neo Geo Pocket Color. Et ils en ont pas fait. Sauf que là, t'as un jeu qu'il y a Ryu, Ken, Chun-Li, tout ça, qui va aller rejoindre un public plus large que ceux qui connaissent juste les jeux de SNK. Puis tous les jeux de fighting sur la console utilisent la même méthode de contrôle où peser plus longtemps sur un bouton fait que l'attaque est plus forte. Puis vu que le système de contrôle de SNK habituellement c'est un bouton faible et un bouton fort, pas trois niveaux de boutons comme les jeux de Capcom, ça se transpose assez bien. Ça n'a pas besoin d'un délai beaucoup plus long pour le déclencher, fait que ça fonctionne excessivement bien. Et évidemment avec le joystick qu'ils ont dessus, c'est impeccable, ça se joue très 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 bien. Puis d'ailleurs, là, même dans, à l'époque du Game Boy...
Quand même, mettons, t'as peut-être des minutes, tu fais comme...
C'est ça. Oui, mais tu le sais que tu le fais.
C'est clair. Ça doit être bien plus facile de faire les...
Mais oui.
Ben, comme un joystick attaques. D'arcade, tu l'entends à la Switch. T'sais. Fait que c'est... Ça te donne... T'as le cue que ton input a été saisi. Mais en plus, même à l'époque du Game Boy, là, les seuls bons jeux de fighting qu'il y avait eu sur le Game Boy classique noir et blanc, là, c'était King of Fighters. C'est les seuls bons jeux de fighting qu'il y avait eu, même sur la plateforme rivale, c'était eux autres qui l'avaient fait. Fait qu'il y avait vraiment comme un manque à combler dans les jeux de combat.
Une expertise aussi, de toute façon, dans ce domaine-là. Puis...
Évidemment. Fait que là, ben, en plus des jeux de fighting, je vais faire un survol des autres titres qui ont marqué la plateforme, puis vous allez voir que pour une plateforme qui est si méconnue, il y a du stock. On a eu deux jeux de Metal Slug, évidemment, c'est une des licences
de SNK. T'as-tu un extrait audio de Metal Slug?
Ah oui, attends, je vais vous donner un extrait ici. Ça, mais crissement cheap parce que les chips audio des plateformes mobiles à cette époque-là sont vraiment pas terribles. Mais bref, deux versions de Metal Slug, mais on s'entend que tu peux pas faire l'espèce de saturation de balles puis d'ennemis à l'écran sur une plateforme mobile. Donc, c'est un jeu qui est quand même plus lent puis demande plus de planification. D'ailleurs, en Game Boy Advance, il y a CT Special Forces qui sont des jeux qui reprennent vraiment beaucoup le feel de Metal Slug First Mission, là, qui est la version Neo Geo Pocket Color, en tout sauf en nom. Mais bref, il y a eu comme un... Ça a eu un certain héritage dans une autre franchise de jeu sur Game Boy Advance. Ensuite, on a un partenariat avec Sega qui nous a donné un Sonic the Hedgehog Pocket Adventure qui était cœur. C'est facilement la seule bonne version portable de Sonic jusqu'à cette époque-là. Bon, il y a des fans de Game Gear qui capoteront, là, mais c'était vraiment pas grosse coche. Fait qu'on a vraiment une super, super bonne version. Puis vu la performance de la machine, c'est rapide, c'est très, très, très fluide. On a vraiment une bonne expérience portable de Sonic pour, je dirais, la première fois. Encore avec Sega, on a un port de Puyo Pop, donc on a une alternative à Tetris, ça t'en prend une, t'as pas le choix. On a Bust a Move Pocket, pour encore une autre option dans les puzzles. Non, Bust a Move, c'est pas un jeu de danse, Dan. Ah. Désolé. Ben oui, c'est un jeu de danse, mais c'est pas de celui-là qu'on parle.
Ah.
OK. Disappointed! Voilà, on a une version de Pac-Man, qui est pas géniale à cause de la taille de l'écran, mais bon, hein, l'effort est là. On a un jeu de cartes de SNK vs. Capcom, en deux versions, version SNK versus Capcom, parce qu'à cette époque-là, tout avait un jeu de cartes.
Ouais,
hein? C'était le boss de Yu-Gi-Oh! Et toutes ces affaires-là qui commençaient. Là. Fait plein de jeux de cartes. C'est sympathique, c'est simple, mais bon. Dans les jeux de sport, on a Neo Geo Cup 98, jeu de soccer. On a Baseball Stars, qui est une excellente franchise d'arcade de jeux de baseball qui a été portée là-dessus très efficacement. Et on a Pocket Tennis, qui, bien qu'excellent, ne peut pas... tenir une chandelle à Mario Tennis sur Game Boy Color. Voilà. Mais dans les entrées pas mal plus uniques, on a le droit à Biomotor Unitron, qui était une nouvelle licence pour SNK, qui devait clairement être la réponse à Pokémon, puis qui est très solide. Mais bon, c'est sûr qu'en rétrospective, il n'y a rien qui peut être Pokémon. Là. On le voit là, tant d'années plus tard que c'est peine perdue. On a Facelay, qui est F-A-S-E-L-E-I, point d'exclamation, qui est un RPG tactical avec des gros robots. Extrêmement ambitieux comme jeu là. On a un gros roster de personnages. Tous les robots de chacun des personnages sont modifiables avec chacune de leurs pièces. Le jeu est pas très long, il prend une dizaine d'heures, mais c'est impressionnant de penser à ça. On n'aurait jamais eu quelque chose comme ça sur Game Boy Color là. Jamais. On l'a sur cette plateforme là. D'ailleurs, essayez pas de vous en procurer un en dehors de l'émulation. Il est jamais sorti en Amérique, il est sorti en Angleterre et au Japon. Version japonaise, on s'entend que c'est bon à rien parce qu'il y a plein de textes. Version anglaise va vous coûter quelque chose comme 300-400$. La cassette seulement.
Wow!
on a un spin-off de Ogre Battle, du nom de Legend of Ogre Battle Gaiden, Prince of Zenobia, qui est malheureusement pas sorti en droit du Japon. Mais encore une fois, il y a tellement de texte que c'est pas jouable. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le gameplay est le même que la version SNES. Donc on a un jeu de stratégie semi-tour par tour, semi-temps réel, avec beaucoup de profondeur. Sur une petite machine, c'est complètement cinglé. Ensuite, on a Dark Arms Beast Busters, qui devait essayer d'être une espèce de Zelda de SNK pour la plateforme. C'est beaucoup plus dark. C'est pas mauvais, mais c'est très grindy. Ça focus plus sur le combat puis la navigation que des puzzles, ce qui fait que c'est un peu vide. Bon, c'est un bon ajout au catalogue, c'est beau, mais c'est pas quelque chose que vous allez rejouer aujourd'hui puis apprécier.
Il y a quelque chose à dire sur le fait que tous les jeux que tu nommes depuis tantôt sont des jeux qui essayent d'être une franchise de Nintendo.
Ouais, ben, t'as toutes les licences de SNK, puis tout le reste, c'est comme, OK, si on veut se battre contre le Game Boy, où est-ce que tout le monde a échoué? Qu'est-ce qu'il faut offrir comme expérience? Ouais. C'était très, très délibéré, c'est sûr. Dans le cas là, de Biomata Unitron puis de Dark Arms, là, c'est clairement, clairement des réponses.
Mais ça en dit beaucoup sur la qualité de ces franchises-là? Qui mm-hmm. mm-hmm. Encore aujourd'hui, là, un des premiers jeux qu'on a joué dans notre vie, c'était le premier Zelda, puis là on joue à Breath of the Wild.
Ah, et puis c'est une valeur sûre, là, tu sais. En fait, il y a eu des tours de force là, sur le Game Boy. Comme... En fait, le plus gros tour de force du Game Boy original, c'est Link's Awakening. Là, que tu aurais sorti ce jeu-là en Super Nintendo, ça aurait été un succès monstre. On l'avait en format portable.
Ouais.
Fait que oui, c'est toujours des franchises que ils prennent beaucoup de soin, mais que. Tu peux pas rivaliser, là.
Mais il donne le ton.
Ah, exact.
Il donne le ton à la compétition, là, si tu veux venir jouer dans ma cour.
Ouais, faut ouais. En fait, tu devrais même pas essayer, là. C'est l'approche Microsoft, là. Fuck it, on va faire des Halo, puis bonne journée, là, parce que tu feras pas un Mario, là. Et comme Sony a essayé et a échoué. Hein? Fait que c'est ça, la compétition, ils sont tous mis de se tenir loin. Mais bon, c'est pas ça qu'on essaie de faire ici. Finalement, comme dernier titre que je vais nommer, Mega Man Power Fighters, ou en fait Rockman Power Fighters. Encore une fois, au Japon seulement, mais là, il n'y a pas de barrière de langue. Puis pour ceux qui ne connaissent pas la série Power Fighters, en fait, c'est des jeux d'arcade de Mega Man qui sont essentiellement les batailles de boss, mais que tu peux faire en coop. C'est des jeux d'arcade super le fun, mais hey, qui c'est qui va chialer d'avoir un Mega Man sur une plateforme portable, puis qui est vraiment complètement différent de ce qui est disponible.
Quand tu dis qu'il n'y a pas de barrière de langue, c'est parce que c'est pas region lock non plus?
La plateforme est complètement region free. Donc, on peut prendre les jeux de n'importe quelle région sur notre version, ce qui aide beaucoup.
Tant que tu es capable de lire ce qui est écrit à l'écran.
Exact. Puis dans ce cas-là, ben, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a très, très peu de texte pour le jeu.
Puis, ce jeu-là pouvait être joué en coop. Est-ce qu'il y avait une façon de jouer en coop?
Oui, c'est entendu, évidemment, quand tu compétitionnes le Game Boy, que tu as la possibilité d'un Link Cable, surtout la quantité de jeux de fighting que tu as là-dessus.
Ah, j'avoue. Hein.
Uh-huh. Mais oui, il y a un EXT port sur le dessus de la Neo Geo Pocket Color qui permet de connecter ensemble deux consoles. Puis, sérieusement, là, il y a une. La grande majorité des titres l'utilisent parce que les jeux de SNK étant des jeux d'arcade, c'est beaucoup des jeux multijoueurs. Fait que c'est une bonne plateforme pour ça.
La seule difficulté, c'est de trouver deux personnes qui en ont une.
C'est ça aujourd'hui.
Exactement. J'avais vu des gars à l'ancien local d'Arcade Montréal. Il y avait une photo de deux gars en train de jouer en ligne à Neo Geo Pocket Color.
C'est rare comme la marque de pape.
C'est vraiment cool. Faudrait que je fasse un open call pour me trouver des partners à aller jouer. Sauf que tu veux pas jouer dans un bar parce qu'il n'y a pas de lumière.
Il n'y a pas de lumière.
On se fait un LAN.
Oui, c'est ça.
un XT, je sais pas.
Ouais, c'est un tournoi, ouais, c'est ça.
Un XT party. Jeff, t'as Jeff dehors qui regarde dans la fenêtre.
qui sexte dehors.
Hashtag 14 years.
Qui s'extériorise. Qui se...
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est bien là!
Ben, comme j'ai mentionné tantôt, ben, en commençant très, très difficilement avec la vente en ligne seulement, avant de se ramasser dans les mains de, on dirait de façon un petit peu arculon, dans les mains des détaillants, en n'ayant aucune distribution au Canada. Puis, au bout de 2 ans, en fait, donc en 2000, SNK ont été rachetés par Arose, un manufacturier de stock de casino, qui ont immédiatement tiré à plug sur le Neo Geo Pocket Color, en dehors du Japon, puis l'année suivante au Japon. Fait que pendant les années qui ont suivi, on pouvait trouver des gros packs là, à l'allure fucking cheap qui n'auraient pas eu l'air étrange sur les crochets de gogos à l'épicerie. Tu sais, là, c'est ceux qui sont à l'auteur des kids qui sont dans le panier juste pour qu'ils gossent leurs parents. C'est incroyable comment c'est des packages cheap. Mais il y avait un pack que tu as la console puis 6 jeux. Puis il y avait 2 packs de 4 jeux que tu pouvais acheter. Vraiment juste blister avec la petite boîte de plastique, la cassette, bonne
genre,
journée.
On écoute les stocks.
Carrément. Ça fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sont jamais sortis du Japon ou sortis point. Ils ont trouvé des prototypes de jeux. Il y a un jeu Metroidvania. Magician Lord 2, donc basé sur une franchise d'arcade, mais qui n'a aucun rapport avec la franchise d'arcade, qui avait de l'air fou, mais qui n'a jamais vu le jour. Puis je suis pas sûr anyway, que ça aurait eu un gros impact qui a continué longtemps, parce qu'en 2001, là, Game Boy Advance.
Ouais, c'est ça.
Fait que la Neo Geo Pocket Color a été automatiquement complètement dépassée, rendue à cette date-là. Fait que je trouve que malheureusement, c'est une des plus belles consoles qui a échoué, là, qui a un catalogue de jeux qui est hallucinant quand tu considères que ça a seulement existé 2 ans. Je suis pas sûr que tu peux prendre 2 ans de Game Boy ou les 2 premières années du Game Boy Color, en fait, puis trouver autant de titres qui valent la peine d'être joués. Mais bon, c'est l'approche SNK. C'est plus de qualité que de quantité. Puis bon, dans le peu de succès qu'ils ont eu, je pense que ça leur a bien servi. Mais bon, cela dit, c'est très, très, très bien émulé depuis longtemps. Même la console était en vigueur, je pense que l'émulation était solide. Donc, c'est vraiment facile de satisfaire votre curiosité et d'aller voir qu'est-ce que ça avait l'air. Puis, honnêtement, je vous suggère de le faire parce que vous allez pouvoir découvrir des bons D-makes.
Mais voilà, quand on a fait la causeuse sur l'émulation, c'était un peu ça qu'on disait. Il y a des éléments comme ça que t'as quasiment pas le choix parce que le matériel original est à peu près introuvable. Puis, bon, ben, go, tu sais.
C'est ça, il y a beaucoup de titres qui sont introuvables. Il existe des cassettes flash. Donc, ils permettent de mettre des titres à partir d'un ordinateur sur la cassette, mais c'est très dispendieux parce que c'est très peu produit. Ouais, par contre, les consoles elles-mêmes, si quelqu'un est vraiment curieux, là, puis les titres les plus importants, les titres sont encore autour de 20-30$. Puis la console elle-même, tu peux l'avoir en bas de 100$.
Ah oh, ouais?
Ouais, fait que c'est quelque chose qui est quand même accessible. Mais pas d'écran rétroéclairé, les titres les plus importants sont plus difficiles à trouver, donc peut-être aussi bien de l'émuler puis de jouer avec une manette.
Mais en termes de disponibilité, ça se trouve-tu?
Ça se trouve très bien. La console, elle se trouve très, très bien. Les titres, ça commence à être un peu plus difficile, mais quand on en trouve, souvent, c'est pas très dispendieux et c'est même complet en boîte. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être un bon filon pour les collectionneurs, tant que tu cherches pas à trouver Facilé puis Rockman Power Fighters, parce qu'ils sont carrément hors de prix, ces jeux-là. Là. Mais en droit de ça, non, c'est un... Puis en fait, vu qu'il y a beaucoup de jeux de fighting, là, SNK vs. Capcom va être le fleuron de la collection, sont tous à peu près au même prix. Ils sont tous... Anyway, ils jouent tous très, très bien. Voilà.
Réflexion. Sur Pâques ou la revanche des coqs? Le coq. Parce que...
On a-tu un quota, mettons?
Non, le quota. Parce qu'enfin, hein, le printemps est à nos portes. Le temps de la cabane à sucre, le temps de changer les pneus pour ceux d'été, le temps des premières terrasses, pour moi et pour tant d'autres, le temps du retour des allergies. c'est aussi le temps de l'année où les confiseries et chocolateries reviennent à la charge et tentent année après année de nous inciter à la débauche et à corrompre nos cœurs purs à grands coups de lapin en chocolat. Et vous avez bien entendu, parce que sous le couvert sucré pour certains religieux de la fête de Pâques, se cacherait en fait une célébration satanique datant de plusieurs milliers d'années.
Oh, this is gonna be good!
Donc, c'est pour mieux me préparer à faire face à ce danger-là de Pâques la semaine dernière que je me suis permis quelques recherches sur les origines de Pâques et de son célèbre et succulent lapin.
J'ai un warning, là. Aux auditeurs, faites pas jouer la réflexion de Jeff à l'envers, ça summonne un démon.
Ça fait jouer une toune d'Ozzy. C'est quand même pas super. Bon,
qui sait? On fera le test.
Ou pas.
Si on n'est pas là, non? La prochaine fois.
C'est parce qu'on a summoné Ozzy.
On est stone dans un coin. Donc, une chose sérieuse, parce que tout d'abord, il faut savoir que depuis le début des temps, le lapin s'est considéré comme un symbole de fertilité et de renouveau. Longtemps, survivre à l'hiver, c'est avéré un défi de taille, puis une occasion de se regrouper pour célébrer l'arrivée du printemps. Puis comme le temps plus doux était chaque année accompagné du retour des lapins et les autres lagomorphes, l'animal a été rapidement associé aux fêtes du printemps. Pour ce qui est du nom de la fête de Pâques, c'est ici que débute la conspiration. Parce que le mot Pâques, oui.
Spoiler warning.
Le mot Pâques.
Du gâchage.
En anglais, Easter. Ça provient du nom de la déesse Istre, qui est mieux connue sous son nom babylonien d'Ishtar. Donc, qui est la déesse de la fertilité et de la résurrection.
J'en parlais justement hier.
Mm-hmm. Coïncidence? Donc, je crois pas que ce soit une coïncidence entre le lapin fertile et la déesse Ishtar, mais c'est quoi le lien entre la déesse de la calèche du sexe et, et une messe satanique, ben, me demanderez-vous?
Ben...
je dirais que la calèche du sexe, ça a pas mal l'air d'une messe satanique.
Ben, Danny, tu sauras que Ishtar, c'était la femme de Nimrod, fondateur du premier empire et de la tour de Babel. Or!
Ben voyons.
En forme, lui.
Nimrod, ça fait longtemps que j'ai pas fait, ah, je rattrape. Nimrod était aussi connu en Égypte sous le nom de Osiris et ailleurs sous le nom de Baal ou Belzébuth. Ishtar était donc la concubine du démon.
Oh my God!
À cette époque, dans l'ancienne religion...
Un drop de X-Files, c'est bon.
Mais à cette époque-là, dans l'ancienne religion païenne, durant la messe tenue le premier dimanche après la première lune qui suivait l'équinoxe du printemps, le prêtre qui était en charge de la cérémonie, qui rendait honneur à Ishtar, œuvrait à fertiliser un groupe de femmes.
Quand qui, un groupe de femmes?
Un groupe de femmes.
Fait que, est-ce que ça sonne un petit peu comme ça?
Faudrait lire les textes anciens.
Ça se traite du mal, hein? C'est...
Et là où c'est un peu plus troublant, c'est que l'année suivante, les enfants que les femmes avaient accouchés, qui étaient âgés de quelques mois, étaient sacrifiés au nom d'Ishtar, et des œufs, qui étaient un symbole de fertilité, étaient peints avec le sang des malheureux. Nouveau.
Wow! Nice. Hey, les trucs de Pâques, là.
C'est tellement métal.
Je pense qu'il y a quelques années, à Laval, les œufs de Pâques aussi ont été peinturés avec le sang des enfants, mais c'était pas la même raison. Là. C'est le cocoton là, qui avait mal tourné.
Oh, sacrifice!
Un cocoton,
ouais. Ça ne regarde pas, ça.
Ouais, désolé si vous commencez à regretter vos chocolats de Pâques. Mais parlant de chocolat, c'est quoi le lien entre le petit lapin pourtant si mignon et cette fête païenne sanglante?
le lien entre le lapin et le chocolat, je peux t'en faire...
j'ai le lien avec le coco, là, c'est correct. Là.
Mais en fait, il s'avère que Tammuz, le fils d'Ishtar et de Baal, était particulièrement attaché à la petite créature poilue, tellement que la petite créature est devenue rapidement sacrée. En plus, lorsque Tammuz a été tué par un sanglier sauvage pendant une session de chasse, Ishtar a décidé de faire du lapin un symbole de fertilité et de désir sexuel, affirmant que le petit lapin de Pâques pondait les œufs qui permettaient de donner la vie.
C'est pas la première saison de Game of Thrones, ça?
Ah, c'est pas faux comme des lapins.
C'est une grande inspiration.
Le roi meurt par le sanglier.
Le lapin est d'ailleurs considéré encore aujourd'hui comme un symbole de fertilité et de désir qui a su faire la fortune de Monsieur Hugh Hefner. Ainsi que l'éducation sexuelle de nombreux adolescents. Hashtag 14-year-old Jeff. Donc, la fête de Pâques, on célèbre chaque année cette belle occasion de retrouver les becs pincettes de Madame Ginette, les calembours douteux de mon oncle Arthur, assis autour d'un antique set de vaisselle que grand-mère avait reçu en héritage le jour de ses noces. ça serait en fait un mensonge. Et le supplice des brunchs en famille, ce serait plutôt orchestré par Satan et son armée de lapins en chaleur.
J'accepte.
Mais, ne perdez pas espoir! Car dans la basse-cour, un autre animal pondeur résiste encore et toujours à l'imposteur. Fidèle à son habitude, le coq n'hésite pas à se tenir debout face au gouffre ni à se dresser devant l'envahisseur. Le coq... Non-sens, me direz-vous. Pourtant, les signes annonçant que le coq est prêt à surgir pour vaincre les nombreux playboys chocolatés sont bien présents.
Hashtag surgir le coq.
Parce que déjà, notre fidèle coq a su infiltrer les rangs des populaires chocolateries afin de combattre de l'intérieur l'ennemi. Comment expliquer sinon que le lapin Cadbury s'exprime en poulet? Poc poc? Mais c'est pas tout.
Poc poc, vous dis-je, monsieur, poc poc.
Mais c'est pas tout. Parce que Mère Nature elle-même semble avoir pris la part du coq dans le conflit millénaire en exilant les lapins de la famille des rongeurs en leur retirant leur baculum qui se trouve à être l'os présent dans le pénis de presque tous les mammifères. Les lapins, symbole de fertilité, ont donc, le coq mou. Parce que cependant, remplacer l'image du lapin de Pâques par celle d'un coq dans la culture populaire, c'est un défi de taille qui n'est pas gagné d'avance. Il faut unir nos forces si on désire éradiquer les lapins chocolatés et couronner le coq comme étant le principal emblème du printemps et de la fête de Pâques.
Hashtag couronner le coq.
Mais d'ici là, est-ce que vous allez... laissez-vous aller, puis bourrez-vous la face dans les lapins en chocolat qui resteront sur les tablettes en spécial, et ferez-vous comme 76% des gens et mangez les oreilles en premier, ou comme le 9% qui commence plutôt par les pieds et la queue. Mm-hmm. Je tiens à conclure Un petit peu de préparer. Je vais conclure. Je tiens à terminer ma réflexion en espérant voir, avec toute cette prise de conscience-là sur l'histoire et la provenance de Pâques, avoir réussi au moins à vous partager mon espoir qu'un jour, on pourra tous croquer ouvertement dans un coq en chocolat le jour de Pâques.
You, 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 you. Alors, on vous demanderait de partager sur les médias sociaux hashtag résurgence du coq.
En chocolat.
Non.
J'avais oublié, c'était quoi comme suivre après une réflexion?
Mais j'avais du rattrapage à faire. Ah oui, fait que...
Tu t'es gâté.
Tu t'es gâté dans le coq.
Mais...
Ben, justement, restant un peu dans le thème, quand on est allé souper ensemble, il n'y a pas tellement longtemps, faire un petit brainstorm, là, voir de quoi on allait parler dans notre épisode. Mais je me trouvais bien drôle en disant que ce serait un épisode de Pâques, là, parce que Pâques.
Que j'ai complètement oublié.
Fait que ça m'a donné l'idée de faire comme j'avais déjà fait pour la Saint-Valentin puis pour Noël, puis de trouver des jeux cheap avec un thème de Pâques. Là. Mm-hmm. Ouais.
Pas aussi facile, hein?
Non.
Plus ou moins intéressant.
Fait que là, j'étais allé sur Internet puis j'ai googlé, tu sais, mais si tu googles Easter puis Games, là, c'est des Easter eggs qui te sortent. Puis même en cherchant loin, là, je n'ai pas trouvé de jeu de Pâques. J'aurais pu fouiller, là, puis c'est trouvé une petite lien un peu bidon, puis tout, mais bon. Fait que comme ma blonde m'avait dit, mais tu pourrais parler de certains Easter eggs, genre, ben ouais, ça pourrait être amusant. Tu sais, on reste dans la thématique semi-rapproché de Pâques avec des Easter eggs, que je vais appeler des Easter eggs, là, parce qu'un œuf de Pâques, je trouve que ça n'a pas le même.
Ça n'a pas de sens traduit.
Même si la communauté française serait d'accord.
Donc, est-ce qu'on définit ce qu'est un Easter egg?
Ouais, ben. Dans le fond, c'est quelque chose qui a été caché dans le jeu par les développeurs pour être éventuellement trouvé. Ou, tu sais, des fois, ça peut être quelque chose qu'on laissait pour laisser une marque ou laisser une trace de leur passage, si on veut, dans ce jeu-là. Ou quelque chose de juste drôle ou qui fait référence à quelque chose d'autre. Là. Une définition qui vient de moi, simplement. Là. Mm-hmm.
Mais bon, ça se veut caché.
Caché, en général. Et voilà. Donc, j'ai fait un petit top 19. Parce que moi, je fais des tops avec des nombres par rapport. Là.
Ben oui.
De Easter eggs soit intéressants ou surprenants qui se retrouvent dans nos jeux. Full disclaimer, là, j'ai pas tout testé. Là, fait que si j'explique, je les explique pas tous, mais si j'explique quelque chose, pas tout à fait ça, ben, je sais pas, donne-moi de la merde puis on se donnera des punitions. Fait que j'ai un peu organisé par catégorie. Fait que je commence avec la catégorie « C'est mon jeu, je veux être dedans ». Ben, pas mal.
C'est pas une catégorie, ça, au Metro Star?
Je pense que oui. Ça s'appelle le Metro Star. pas mal tout le monde connaît un des premiers Easter eggs de l'histoire des jeux vidéo. C'est pas nécessairement les premiers, là, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mm-hmm. mais c'est un des plus connus. Dans le fond, ça date de l'époque où Atari refusait complètement de créditer les créateurs de ces jeux, supposément là, pour empêcher que la compétition puisse les retrouver puis les embaucher, puis c'est volé finalement. Donc, il y a un créateur, le créateur de Adventure ou Atari 2600, que lui, ben, il trouvait ça un peu poche, puis il a décidé de se donner lui-même le crédit pour son jeu sous la forme d'un Easter egg. Bon, je passe par-dessus la méthode là, qui est un peu plate à expliquer, là, se promener une place, puis une pièce, qui, en tout cas, peu importe. Là. La méthode permet de passer au travers d'un mur là, qui devient invisible, puis qui nous amène dans une pièce où c'est marqué tout simplement « Créé par Warren Robinett ».
Robinett.
Et voilà, donc c'était lui, sa création, il a mis son nom.
Que longuement a été crédité comme le premier Easter egg, mais ce n'est plus le cas depuis peu.
Je pense que c'était 3 ans avant, là, j'oublie, là, j'ai vu passer, puis j'ai juste pas noté, mais bref, c'est peut-être le plus connu. Bon, fait que j'en parle parce que c'est l'histoire. Dans la même lignée un peu, John Romero, co-créateur de Doom 2, lui a trouvé une autre façon de se placer dans son jeu. Après avoir tué le dernier boss, en l'ayant tiré d'en face, là, puis si tu marches à travers la face de ce dernier boss-là, surtout dans une autre pièce secrète où il y a la face, encore une fois, de Romero sur un bâton que tu peux shooter. Puis, t'as un audio en arrière de ça que tu comprends pas trop, mais si tu le fais jouer à l'envers, comme la réflexion de Jeff, là, t'entends, puis là, je traduis librement, là, pour gagner le jeu, vous devez me tuer, moi, John Romero. Fait que, tu shot dessus, puis il saigne.
C'est parce qu'il est pas déjà mort, c'est une tête empalée avec du sang dessus, puis tout.
De toute beauté. Dans le même thème, dans la version AGI de King's Quest 4, il y avait comme deux versions, on avait déjà parlé à un moment donné. Là, que bon...
Oui, ce jeu-là, King Quest 4, était dans la fameuse transition entre les AGI et SCI.
Peu importe, dans la version AGI.
Je te le dis.
Après avoir tué le méchant à la fin, si on tape la commande Beam Me dans l'input là, de commande qu'on peut taper, on se fait téléporter dans une genre de station spatiale là, qu'on voit qui est clairement au-dessus de la planète où on peut jaser avec les programmeurs qui sont là.
Et voilà.
Et voilà.
Beam Me Up, Scotty.
Voilà.
Merci d'avoir expliqué la référence, Jeff. Deuxième catégorie, je vais avec la catégorie j'aime ton jeu, fait que j'ai mis ton jeu dans mon jeu. Il y en a beaucoup, là, j'en ai juste mis certains.
C'est calissement spécifique.
Ben, les fans de Resident Evil se rappelleront sûrement la scène, je pense que c'est dans le premier, là, où Jill est presque écrasée par un plafond qui descend dans une pièce, puis est sauvée là, in extremis par Barry. Là.
Le Jill Sandwich.
Oui, qui dit t'as presque fini en Jill Sandwich. Et dans Dead Rising, il y a un restaurant qui s'appelle Jill's Sandwich.
Ah, nice.
Avec un petit clin d'œil à ça. Star Wars The Force Unleashed 2. Tu sais, le jeu Star Wars, Patriot.
Oui, bon, c'est correct. C'est cute, c'est cute.
Oui, parce que j'ai joué à Wii puis les contrôles étaient caca. Là.
Ah, sacrifice. Je ne sais même pas quand il y a une version Wii de ça. Ouais.
Bref, c'est un jeu qui basait beaucoup sur le motion control. Là, fait que,
quelle mauvaise idée.
Sur la Wii, c'était de la... C'est ça. Bref, tu te retrouves dans une pièce où est-ce qu'il y a trois statuettes.
Est-ce que c'est les statues de Sam & Max?
Non.
Non? Oh, c'était
c'est
pas
ça. Les statues de Guybrush Threepwood
oui,
de Monkey Island. Donc, il y a trois statues en or de Guybrush, puis la toune qui joue est la toune thème de Monkey Island. Si tu pètes, il y a comme des machines à sous, là, des genres de trucs de casino qui sont devant un hologramme de Jabba. Si tu les pètes, tu trouves un holocron qui te permet de transformer ta face en la face de
Guybrush
pour ton personnage de Force Unleashed. Fait que t'es Guybrush qui tire les éclairs.
Il y a souvent des Sam & Max dans les jeux de LucasArts.
Ouais.
Très souvent.
Et il en parlait pas dans celui-là. Là. Ben, parenthèse là, de Force Unleashed, là, dans le premier, il y a une salle avec des trophées où est-ce qu'il y a un Jar Jar en carbonite. C'est mur. Nice.
Comme dans... il l'a pas dans Lego...
Oui.
Lego Star Wars ou dans Disney
non,
Infinity?
Non, dans Infinity.
Oui, dans Disney
On avait parlé dans la cantine de... Pas dans la cantine, mais dans la...
Le palais de Jabba.
Le palais de Jabba, là. T'as un Jar Jar en carbonite.
Oui, mais je pense ça encore.
Désolé, on te l'a spoilé.
Ah
oh, non.
J'avance pas vite.
J'ai ma troisième catégorie. La catégorie...
Clever Girl.
Quoi?
Clever Girl.
Clever Girl, d'accord.
C'est un de nos favoris ici, Monsieur Hideo Kojima.
Ouais. Avec sa subtilité et sa finesse.
Il est reconnu pour aimer mettre des secrets dans ses jeux, justement.
Et puis, des filles tout nues aussi.
Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas des filles tout
nues. OK, good.
Metal Gear Solid 3. Quand t'arrives à... Je sais pas trop exactement quand, mais t'arrives... un boss là, qui s'appelle Dien, un sniper, qui est assez vieux. Si tu sauvegardes justement le boss, puis soit tu laisses le temps passer ou que tu avances l'horloge de ta console, quand tu reloads ta game, il est mort de vieillesse. D'où la catégorie.
Clever Girl.
Il est très très outside the box, monsieur Kojima.
On voit ça avec ses trailers récents.
Ouais. Ou en fait, est-ce que tu parles de Metal Gear Solid 1 aussi
Non.
Bah, c'est juste. Quand tu te bats contre Psycho Mantis dans le premier Metal Gear Solid, que vu qu'il peut lire ton esprit et savoir ce que tu fais, tu branches la manette 1 dans le contrôle 2 et il peut plus lire ce que tu fais. That's a thing.
Je pense que t'as déjà parlé de ça, me dit quelque chose.
Ouais, c'est ça. Puis le code qui est derrière la boîte du jeu, là, en méthode de prévention du piratage, toutes des choses comme ça très très outside the box.
Ou behind the box. Behind the box.
Ben, ça reste outside the box.
OK.
Bon.
catégorie papa, je comprends pas la joke. Tu sais, s'il y a une série de jeux dans laquelle tu t'attends pas à avoir un sous-entendu grivois, mettons, là, c'est les jeux de Mario. On est assez d'accord?
Ouais.
Ben, tu sais, on s'imagine là, que Peach doit caler le plombier de temps en temps pour qu'il s'occupe de sa tuyauterie.
Ah, sacrifice!
Mais on sait maintenant ce qui se passe quand Mario est occupé dans un tournoi de golf, un tournoi de tennis, ou qu'il arbitre un championnat de boxe, mettons. Là.
Ouais, ouais, exact.
Ben, dans Super Mario RPG, si on va dans la chambre de la princesse puis on fouille un peu en. Puis t'en as un peu partout. Il y a un endroit juste à côté du foyer qu'on trouve. Puis là, c'est marqué genre You found Toadstools. Puis avec 4 points d'interrogation après.
Ouais.
Puis là, ben, il y a quelqu'un qui nous dit Hey, qu'est-ce que tu penses que tu fais là? On peut pas fouiller les affaires des autres comme ça.
Oh. On y a trouvé le champignon magique.
Et voilà. Papa, je comprends pas. C'est quoi la joke? J'ai une catégorie premier degré.
Ah, ça en prend.
Grand Theft Auto Vice City.
Ouais.
Où il y a un œuf de Pâques.
Bam!
C'est ça, il y a un œuf en chocolat marqué Happy Easter dessus qui est caché dans le jeu.
C'est legit.
Puis toujours dans Grand Theft Auto, mais dans San Andreas cette fois-là, quand tu vas sur le top du pont, il y a une affiche qui dit il n'y a pas d'œuf de Pâques ici, va-t'en. c'est du. On pourrait comme le poster dans First Word Anarchist sur Reddit, ça fitrait.
Ouais, c'est ça.
J'ai une catégorie que j'ai nommée Tabarnak, comment tu voulais que je sache ça? Où on trouve des easter eggs vraiment trop comme complexes. Là.
Oui.
Celui que j'ai. Écoute, il y en avait plusieurs, mais j'ai choisi celui que je trouvais le pire. Shenmue 2. Généralement, c'est pas connu pour ça, mais on peut, dans Shenmue 2, faire partie d'un club secret de course de canards.
Nice.
Ouais, pour réussir à faire partie de notre club de course de canards, faut parler à deux NPC qui sont dans des endroits où est-ce qu'il y a absolument rien à voir d'autre que eux autres, à deux bouts opposés de la map. Une fois que t'as fait ça, faut aller dans une certaine ruelle sombre où est-ce qu'il y a à terre un petit coin, un sou en bronze, que tu peux pas rien faire avec, mais qui donne accès au troisième étage d'un arcade, où est-ce qu'il y a un fight club. Puis les deux gars qui sont là, c'est les deux dudes à qui t'as parlé, que tu dois battre, qui sont les gars les plus durs à battre du jeu.
Bien sûr.
Une fois que tu les as battus, il y en a un des deux qui donne une médaille en argent, puis qui te parle des courses de canards. Fait que là, tu peux aller bêter sur des courses de canards. Puis on a vraiment des petits docks avec des petites boucles de couleurs qui coursent sur une plateforme. Ça a l'air de toute beauté. Puis tu peux gagner, mais peu importe combien de fois que tu gagnes, tu n'auras jamais une médaille en or. Pour avoir une médaille en or, ça te prend ton propre canard. Puis ce canard-là, il est dans un arbre, à quelque part dans le jeu. Mais pour le voir, le canard, il faut que tu arrives à attraper des feuilles qui tombent de l'arbre, un certain nombre de feuilles en un certain temps, pour voir le canard dans l'arbre. Puis là, il faut que tu frappes sur l'arbre pour que le canard tombe, pour que tu le pognes, pour pouvoir faire des courses de canard à ton propre canard.
Non, mais c'est bon, c'est quand même c'est relativement puis, simple. Hein,
c'est quoi la récompense après tout ça?
T'as une médaille en or.
T'as une médaille en or de canard.
Ouais.
OK.
C'est plate qu'on n'a pas un « le canard
». Non, mais je pense que juste un long silence malaisant, ça fait le job.
Ouais. J'ai une catégorie que j'ai appelée « Good job, Dev ». Pour certains easter eggs qui ont été très, très, très longs à trouver.
D'accord.
Par exemple, ça a pris 9 ans avant de découvrir que dans Wave Race Blue Storm au GameCube, on pouvait rentrer un code, un genre de Konami code si on veut, dans le menu audio, quand tu es dans le menu audio pour écouter les tracks, pour débloquer une nouvelle voix d'annonceur que quand tu fais tes courses, va comme faire les commentaires de façon très, très sarcastique blasée. Là.
Ben, il y a probablement une raison pourquoi ça a été aussi long que ça. Là.
Parce que personne va dans le menu audio.
Non, parce que personne n'a joué à Wave Race au GameCube.
Un mix des deux, je pense. Personne n'a joué au jeu, puis personne va dans le menu audio.
C'est ça.
L'article que je disais, je me rappelle plus, c'est sur Gazette, disait je pense qu'il y a 3 personnes qui vont être dans le menu audio. Le gars qui l'a fait, le gars qui l'a débogué, puis le gars qui a trouvé le code 9 ans plus tard. Ouais. 91, Nintendo Power a fait un concours où le gagnant aurait son nom dans le prochain Zelda au Super NES.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que les programmeurs ont mis une pièce avec une petite tuile là, qui disait hey, « c'est la chambre secrète de... » J'ai oublié le nom du gars, puis je l'ai pas noté. Bref, peu importe. T'as trouvé la pièce secrète, dis-le pas. T'sais. Mais la pièce secrète n'était pas supposée être dans le jeu japonais, vu que le gars, c'est un Américain. Fait qu'ils ont envoyé le jeu à l'équipe de localisation américaine, qui eux autres ont enlevé la porte. Fait que la pièce était dans le jeu, mais pas dans la version japonaise. Mais dans la version américaine où la pièce était là, il n'y a pas de porte.
Fait que tu peux juste l'avoir en hackant le ROM. That's it.
Ça aurait pris peut-être jusqu'en 2002 avant que mettons, des méthodes sans hacker le ROM se propagent à cause d'Internet pour qu'on réussisse à trouver des façons d'y aller. Là. Fait que maintenant, ça se fait puis relativement facilement quand tu le sais comment.
Avec un glitch ou...
Ouais, c'est ça. Mais ça a quand même pris 11 ans avant qu'on puisse vraiment voir cette pièce.
Quel gars ils sont pris.
Bref, j'ai vu comme 5 façons là, comme d'accéder à la pièce. Là. Deux de ces façons-là, c'est de se faire tomber dans certains des trous là, où est-ce que tu tombes dedans puis qu'il y a une pièce en dessous. Mais te faire tomber en mettant une bombe qui te pose dans le trou.
Ouais, ça fuck les adresses mémoire. Puis ça
j'ai vu à deux places, là, l'espèce d'arbre là, que tu coupes là, puis que...
Oui.
Puis dans le cimetière aussi. Puis 3 autres places où est-ce qu'en arrivant en courant de 3-4 écrans de suite, tu passes dans un trou que quand tu passes dessus en coupant le gazon, tu tombes, qui te font tomber dans cette pièce-là, là, y compris dans le fond le trou pour aller à Ganon. Ça arrive en montant les escaliers en courant, tu te retrouves dans la pièce secrète.
Nice.
Fait que, tu sais, c'est ça. T'sais, c'est pas quelque chose que tu trouves par hasard. Là.
Mais des fois, je me demande s'il n'y a pas des choses, c'est pas dans ce cas-là, mais je me rappelle quand je vois Half-Life 1. Là, tu peux faire ouvrir la console, écrire nos clips, là, t'sais, on va cheater. Puis quand tu faisais nos clips dans les premiers niveaux de Half-Life 1, puis tu clippais dans la map, il y avait une pièce qui était comme vraiment loin dans le vide. Là. C'est comme il y avait un bloc dans le vide, puis quand tu restais dans le bloc, c'est une pièce relativement grande, fermée, aucune entrée, puis c'est le logo d'Half-Life, mur à mur, partout. Il y avait comme c'est juste la texture d'Half-Life qui se répétait partout, il n'y avait rien à faire là.
Mais ça pouvait pas servir genre dans l'intro ou quelque chose comme ça, genre.
Ben c'est peut-être ou tu sais, des tests ou du.
Parce que je sais que dans GTA 5. T'as la scène d'intro où t'es dans la neige, là, pis les gars se poussent.
Ouais.
Mais il était quelque part dans la map.
Ben oui, t'as pas le choix.
Fait que le monde est dans l'éditeur.
Ouais, parce que tu joues cette scène-là, c'est pas juste vidéo. Là.
C'est ça. Fait qu'elle est comme en retrait, elle est comme cachée à l'autre bout du monde, puis elle existe comme dans un endroit fermé. T'sais. Fait que je sais pas si la fameuse pièce d'Half-Life est là pour ça, mais sur PC, je sais que c'est plus fréquent par contre d'avoir des. Y a des maps de Counter-Strike que t'as des. Dans le plancher, t'as des rooms de credits de cachés. que le monde verra jamais, mais quand tu après une game, tu te déplaces librement, tu sais.
Ah, tu peux y aller après.
Tu peux y aller.
Ouais, parce que j'ai quand même vu une couple de trucs dans nos clips. Là. Il y avait une affaire dans Golden Eyes où que tu pouvais avoir une espèce d'île au loin dans le premier tableau où est-ce qu'il y a des Gatling guns dans des tours.
La fameuse comme... île qui n'a pas été utilisée. Elle a une histoire, cette île-là.
Okay.
Elle devait être utilisée. Elle était supposée avoir comme quelque chose que tu activais les guns, que tu te rendais là avec un bateau puis tout. Mais ils n'ont jamais développé le bateau puis tout ça. Fait que c'est juste une placeholder qui n'a jamais rien servi.
Dans la série des no clips que j'ai pas noté, mais j'ai passé proche, là, c'est dans le jeu Sin.
Ouais.
Qui était un jeu pas très très hot, mais qui est sorti plein de bugs, là, mais qui est reconnu pour les l'attitude suggestive, mettons, là, de la boss. Ben, il y a une place dans un truc à balai, là, dans une affaire de concierge, qu'il y a une caméra que quand tu la regardes, ça pointe comme une pièce qui n'a pas vraiment d'accès, qui est genre une pièce de 20 tourbillons, genre de spa de la boss. Là. Puis tu la vois clairement de dos avec les jambes écartées, puis tu entends un monde dans le micro. Mais si tu fais du no clip, tu vas en avant d'elle, là. Essac.
Ah oui?
Ah non, c'est... Écoute, c'est très clair.
Elle a été modelée.
Les mouvements que tu vois pas de dos, là, ils ont été animés bien en masse de face. C'est comme, OK. Fait qu'ils ont passé plus de temps à faire ça. Le jeu est sorti plein de bugs, mais...
Mais tu sais, ça, faut lever notre chapeau au monde qui trouve... Tu sais, quand t'as pas une commande nos clips, le monde qui réussit à se glitcher en dessous d'une roche dans un coin de mur. Je rappelle quand Destiny a sorti... Puis là, c'est comme si ça a été un peu un scandale qu'on va pouvoir acheter des DLC, mais ils sont tous déjà dans le jeu.
Ouais.
Puis tout le monde est capable de snowclip à travers des coins de mur ou des roches, puis d'aller explorer toutes les zones, parce qu'il n'y avait rien à faire, mais on peut les explorer quand même.
Ça a une fois dans Zelda que j'ai passé proche de tomber au travers d'une montagne. J'ai décidé de ne pas avancer, puis j'ai comme, j'ai pas goût de faire glitcher mon affaire, là. Mais j'ai comme, OK, je vois en dessous de la montagne, puis c'est clair, si je fais un pas de plus, je tombe. Bon. Je continue avec dans la catégorie Bel Job développeur. Là.
Oui.
La première place dans cette catégorie-là, ça a repris 26 ans pour trouver ce Easter egg-là. Puis encore, il a fallu que le développeur dise qu'il avait caché quelque chose, mais il ne se rappelait plus comment y accéder. c'est dans la version portée de Donkey Kong sur le Atari 400. Le développeur, le programmeur qui avait travaillé là-dessus, le Landon M. Dyer, avait travaillé comme un maudit fou là-dessus. Il a décidé de cacher ses initiales dans le jeu. Mais il ne se rappelait plus comment, personne ne l'avait trouvé. Mais en fait, je peux comprendre. Pour le trouver, il a fallu que quelqu'un décompile le code puis suivre l'assembleur pour réussir à trouver comment le faire apparaître. Fait que pour le faire apparaître, watch out, là, il faut que tu perdes ta dernière vie avec un score que le quatrième et le cinquième chiffre sont 37, 73 ou 77. après ça, il faut que tu repartes le jeu au quatrième niveau de difficulté puis que tu attendes. Puis là, tu vas apparaître les initiales du gars en bas de l'écran.
Oh my God.
Ouais.
Ça ne demande pas pourquoi personne est tombé là-dessus par hasard.
Même si quelqu'un serait tombé dessus par hasard,
il aurait pas remarqué.
Il l'aurait remarqué ou il l'a pas dit.
Ou il a pas reparti le jeu à difficulté 4 après, tu sais, je veux dire.
Mais bon.
Hein, c'est ça. Fait que, catégorie, on a mis un jeu dans ton programme qui est pas un jeu. Celle-là est inspirée par ma blonde qui m'avait parlé des Easter eggs en me parlant de un de ceux-là que je savais pas qu'il existait. Puis, dans le fond, pendant un bout, Microsoft mettait des jeux dans sa suite Office.
Mm-hmm.
J'imagine qu'ils ont reçu beaucoup de plaintes d'employeurs là, parce que ça fait comme 20 ans qu'ils ne font plus vraiment. Là. Mais voilà. Le premier de ce genre-là, c'était dans Excel 95. Puis là, j'ai pas écrit la démarche là, parce que c'est une affaire d'aller écrire de quoi dans une case, puis après ça, de cliquer sur le go to. Mm-hmm. Peu importe. Là. Fait qu'il y avait un espèce de Doom dans Excel 95. En fait, c'était une pièce style Doom où tu te déplaçais, il n'y a pas d'ennemis. Puis là, ben, il y avait un petit tableau, tu te déplaçais, des petits passages, tu arrivais à la fin, puis il y avait comme la liste des développeurs. Puis là, si tu rentrais une commande, là, j'oublie c'était quoi, mais en tout cas, ça te permettait de passer au travers du mur, puis de l'autre côté, il y avait une photo des développeurs d'Excel. Quand même sympathique. Dans la suite 97, là, il y en avait pas mal plus. Là. Il y avait dans Excel 97, encore un truc comme ça avec des cellules et tout, que tu pouvais rentrer dans un genre de flight simulator sur une espèce de planète mauve où tu pouvais voler là, un peu
Ça, je m'en rappelle. Ça devait tellement être des démos de DirectX qui ont juste droppé dedans. Là.
Puis au milieu, tu as une grosse slab là, en angle avec les développeurs qui. Les credits qui roulent. T'sais, c'est une façon genre de cacher tes credits de façon quand même fun. Puis tu sais qu'il y a bien plus de monde qui vont voir tes credits en faisant ça comme
que dans le About. Là.
C'est ça. World 97, puis c'est celui-là que ma blonde connaissait puis se rappelait. Il y a une façon d'avoir un petit jeu de pinball là, vraiment, vraiment cheap. Là. Il est vraiment pas très hot. Où est-ce que genre t'as comme trois petits obstacles puis c'est tout.
Tu sais, dans Windows 95, qui a un pinball. Pourquoi?
Ben, tu sais, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir tester sur votre VM de Windows 95 pour jouer à Jazz Ball. Vous allez pouvoir installer Office.
Ah, c'était ça.
Access 97. Tout le monde se servait d'Access.
Ben oui, évidemment.
Tu peux faire apparaître un bouton dans tes barres d'outils qui est comme une boule 8 magique. Tu sais, les boules 8 magiques que tu brassais. Puis ben là, en fait, quand tu fais ça, quand tu cliques sur le bouton, c'est Clippy qui donne la réponse de la boule 8. Là.
Mm-hmm.
Je pense que c'est l'affaire la plus utile qu'il a faite dans toute l'histoire de Microsoft. Pour les intéressés, ça fonctionne aussi dans Access 2000.
Pour les intéressés. Cool. Parce que tout le monde se sert encore d'Access 2000.
Oui.
Je sais. Je faisais juste le mentionner. Là. C'est vrai.
C'est un fait. Mm-hmm. C'est prouvé.
Oui.
Excel 2000, dans la même suite, c'est un des derniers qu'ils ont fait. Là. Il y avait un astéroïde aussi dans une fonctionnalité de Mac 2004. Là,
okay.
Mais Excel 2000, un genre de petit Spy Hunter, qui était quand même pas pire. Là. Lui, il fallait avoir une carte vidéo qui supportait le 3D. Là. Je sais plus trop c'est quel.
Quand même, 3D, quand même.
Parce qu'il y avait ton truc était un petit peu en 3D. Fait que t'avais un truc un peu Spy Hunter, là, ton auto qui se promenait, puis il y avait les credits, puis des phrases aussi là, décrites là, sur l'asphalte. Là. Mm-hmm.
Sympathique.
Oui. Voilà. Je finis avec une dernière catégorie, c'est la catégorie RFTM. Vous connaissez RFTM.
Read the fucking manual.
Ouais, celle-là, c'est comme peut-être un Easter egg, quelque chose que bien du monde ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais lu le fucking manuel. Là. Fait que soit tu le savais parce que tu as lu le manuel ou que tu n'as jamais lu le manuel puis tu l'as appris genre l'année passée ou tu l'apprends live là. À Duck Hunt.
No.
Duck Hunt, si tu prends le mode single dock puis tu branches une manette dans le deuxième port. Tu peux contrôler le canard.
Ouais, le left-right. Là.
C'est comme considéré comme un Easter egg, mais dans le fond, c'était écrit dans le manuel. Mais
c'était
qui
document.
A déjà lu le manuel de Duck Hunt? Ça, c'est la question. Mais qu'il y a souvent un paquet de trucs meilleurs là, pis, que ce que j'ai pu trouver. Je trouvais qu'avec ce que je trouvais intéressant, puis il y en a comme vraiment des millions d'Easter eggs. Il y avait des listes de 100, les 100 meilleurs Easter eggs sur l'ordi.
Les 100 meilleurs Easter eggs sortis entre avril 2005 et ça. mai 2005.
Fait que si vous avez des Easter eggs préférés, là, des affaires que vous avez comme trouvées même sans faire exprès, là, sans chercher sur Internet avant, ben postez-les, ça nous intéresse. C'est quand même des choses qui sont amusantes. Et voilà pour le segment sur les Easter eggs.
Good show!
Donc, si vous avez envie, si vous pouvez le faire, vous pouvez donner un petit coup de main sur pour le podcast au patreon.com/divanquest. On retrouve nos épisodes sur le divanquest.com. Pour du feedback, du hate mail, on va sur le twitter.com/divanquest. Sur Facebook, au facebook.com/divanquest. Par courriel au divanquest@gmail.com. On retrouve le podcast avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com, ce site géré par le collègue de Matt. Là.
Hey! Salut, JF!
Le playlist part dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. On se retrouve aussi sur le baladoquebec.ca avec un top 5 toujours amusant. Ah, c'est ça. Oh. Désolé. Vous pouvez aller faire un tour sur iTunes aussi, cliquer les petites étoiles, mettre un petit commentaire. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu. Puis, c'est iTunes.
On aime bien ça.
Donc.
Sacré. C'est la fin la plus molle.
c'est mou, hein.
De l'histoire de Divanquest.
On tous bien de finir ça là.
Et voilà.
Et on se revoit bientôt. D'ici là.
Game on!
Game on!